Voilà. Bonsoir. Bienvenue à vous dans ce groupe autour des enseignements non duels, autour des enseignements qui nous disent qu'il n'y a qu'un seul esprit et nous sommes cela. Nous sommes le lundi 13 décembre 2010, un des derniers lundis de cette semaine, et nous sommes assis ici, autour du feu, en face du feu. Je vais faire sonner un instant ma cloche, et c'est une invitation à être dans cette écoute tous ensemble, dans cette présence tous ensemble, et j'invite dans cette écoute tous les frères qui entendront par la suite cet enregistrement et qui sont dès maintenant dans la présence avec nous. Merci, merci le feu aussi de s'être rappelé à nous. Il fait partie aussi de la soirée, lui qui se consume, qui brûle dans l'âtre. Je vais introduire brièvement la soirée et puis ensuite nous pourrons échanger à propos de ces enseignements qui dans leur ensemble ne traitent que de deux mots, hein, et ces deux mots sont Dieu est. Dieu est, c'est réellement la façon de décrire l'unité la plus courte et la plus adaptée, la plus véritable, hein, qui soit. On peut dire ça et puis ensuite se taire, ça contient tout, hein, c'est comme ça que c'est présenté. Alors, la semaine dernière, j'ai été guidé à choisir une phrase qui peut-être nous servira de support pour partager, si nous le sentons. Et c'est dans le chapitre 8 de Un cours en miracle, sous chapitre 4, et ça dit « Si tu veux être comme moi, je t'aiderai, sachant que nous sommes pareils. » Si tu veux être différent, j'attendrai jusqu'à ce que tu changes d'esprit. C'est une phrase qui résonne beaucoup en moi, ça. Hein. Ça nous parle bien de l'accueil infini de notre jeu de séparation. L'accueil infini, c'est Jésus, Yeshua, hein, qui dit cette phrase. En tant que celui qui a dicté un cours en miracle à Helen Schuckman, hein, dans la fin des années 60. Voilà, si tu veux jouer à la séparation, alors joue autant que tu veux. Et si tu veux être comme moi, c'est-à-dire revenir dans l'esprit d'unité, je t'aiderai, sachant que nous sommes tous pareils. Tu es mon frère et je suis ton frère. Hein, et nous sommes tous un. C'est ce que j'entends, ce que je comprends dans cette phrase. Voilà, dans cette soirée est comme les autres tout à fait informelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de boss, hein, il n'y a pas celui qui dirige à part le Saint-Esprit, celui que nous avons tous, hein, il y a un seul Saint-Esprit que nous partageons, c'est l'Esprit 1, celui qui peut nous guider en toute situation et à qui aussi je remets la direction de cette soirée. Et encore cet après-midi, je me disais, c'est super, préparer ces soirées, c'est facile. J'ai absolument rien à préparer. J'ai juste à préparer la table. Puis tout le reste, je me dis, tu t'inquiètes pas, vie. Tout va se passer admirablement bien, puisque ça se fait à travers moi, à travers nous, mais pas par moi. Pas par nous. Alors, pour confier la direction de cette soirée, j'aime bien citer cinq phrases, hein, qui sont page 30 de Un cours en miracle, hein, vers le début de cet ouvrage de 2300 pages. Je les cite régulièrement dans ma vie et force est de constater pour moi que ça m'aide à, à arrêter de vouloir contrôler le déroulement des choses, parce que de toute manière, même quand j'essaie de contrôler, et peut-être même surtout, ça ne se passe pas comme j'aurais voulu. Donc ces phrases, elle dit, je ne suis ici que pour aider véritablement, je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à me soucier de quoi dire ou quoi faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Dans ces cinq phrases, il y a aussi comme un résumé, un concentré des valeurs fondamentales qui sont présentes dans les enseignements d'Anduel et en particulier dans Un cours en miracle. Ça parle de guérison, de pardon, ça parle de confiance surtout. Voilà, on pourra certainement aborder ces sujets-là si c'est adéquat. Alors, il y a aussi, de temps en temps, j'aime bien la reciter, une phrase d'Eckhart Tolle que je peux citer qui m'a beaucoup fait rire et qui m'a marqué aussi. Il dit, il y a deux manières de ne pas être heureux, ne pas obtenir ce que vous voulez et obtenir ce que vous voulez. Voilà. Dans un apparent paradoxe, ça dit beaucoup de choses qui sont aussi reprises dans les enseignements mondiels. Hein, si j'ai toute la reconnaissance que je veux, si j'ai tout l'argent que je veux, si j'ai toute l'appréciation que je veux autour de moi, est-ce que pour autant j'ai tout ce que je veux? Voilà, force est de constater que, comme le proverbe dit, l'argent ne fait pas le bonheur et que c'est pas ce que je veux dans le domaine de l'ego qui me rend heureux. Donc ça aussi, on pourra en parler. Et puis encore une petite phrase issue de Un cours en miracle. Dans l'introduction, ça parle de la portée du cours. Ça dit, le cours ne vise pas à enseigner la signification de l'amour, car cela est au-delà de ce qui peut s'enseigner. Toutefois, il vise à enlever les blocages qui empêchent de prendre conscience en la présence de l'amour qui est ton héritage naturel. L'opposé de l'amour est la peur, mais ce qui embrasse tout ne peut avoir d'opposé. Ce cours peut donc se résumer très simplement de cette façon. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe, en cela réside la paix de Dieu. Voilà, c'est dans les toutes premières pages, dans l'introduction de Un cours en miracle. Alors, je vous encourage ce soir, vous qui êtes autour de cette table, à mettre en avant des situations personnelles, parce que celles-ci sont souvent très parlantes pour la plupart d'entre nous nous donnent l'occasion de réinterpréter en fonction des enseignements de l'esprit, de réinterpréter, de pardonner aussi, de voir comment appliquer le pardon au quotidien. C'est vraiment très pratique, ces enseignements. Comment guérir l'esprit pour lui apprendre à voir correctement, à voir juste une situation qui apparemment est vue de manière erronée lorsque l'ego m'entraîne dans le jugement, dans la condamnation, dans la perception fausse, dans la peur, dans etc. Je trouve que c'est des excellentes bases. Merci à tous ces frères et sœurs qui nous font réagir chaque jour, à ces compagnons, à ces compagnes qui appuient sur les bons boutons pour voir qu'est-ce qui reste à guérir en nous, et qui de cette manière-là sont une vraie bénédiction, puisque quand je pourrai enfin tout accueillir inconditionnellement, c'est-à-dire rester neutre, ou bénir celui qui m'envoie une méchante injure, alors je pourrais dire qu'il n'y a plus de bouton en moi, il n'y a plus aussi d'ego pour réagir. Car il n'y a que l'ego qui se sent attaqué et qui a besoin de se défendre. Dans l'immensité de tout est un, il n'y a aucun opposé, donc il n'y a personne qui puisse m'attaquer, il n'y a personne duquel je doive me défendre aussi. Et il n'y a que joie infinie qui s'amplifie en permanence. Voilà, jusqu'à ce que cet état soit le nôtre, hein, nous partageons à propos de comment nous sommes en dehors de cet état en apparence. En apparence, nous nous sentons parfois attaqués, parfois dans le jugement, parfois condamnés, et nous faisons aussi ça, c'est-à-dire nous condamnons, nous jugeons, en pensant qu'il y a quelqu'un d'autre en face de nous. Voilà, sur ce, je laisse la parole à qui veut bien, à qui se sent inspiré de continuer.
Moi, je voudrais ajouter que nous devons nous bénir aussi, parce que quel qu'en soit ce qui nous arrive, quelque part, nous sommes responsables. Pendant que nous bénissons quelqu'un qui nous a fait quelque chose que nous n'avons pas apprécié, bénissons-nous aussi, parce que on est plus ou moins responsable de ce qui nous arrive. Des fois, l'autre, la plupart du temps, l'autre, c'est notre miroir. Donc, projetons à l'extérieur, comme tu viens de dire, nous faisons agir des situations pour nous permettre de guérir ce qui est à guérir. Et souvent, on oublie de dire merci. Parce que humainement, parfois, quand on oublie qu'on est spirituel, ça ne fait pas toujours la joie.
J'ai juste envie de rajouter que merci et d'une manière générale la gratitude pour quoi que ce soit, c'est un moyen d'élever les vibrations de nos cellules. C'est un moyen d'être un peu plus qui nous sommes vraiment. Puisque plus nos vibrations sont hautes, plus nous sommes proches de l'état d'amour inconditionnel. Quand je peux remercier la situation de m'avoir apporté des opportunités de pardon, j'élève mes vibrations et je me rapproche un petit peu plus de l'état d'amour tel qu'il est décrit dans cette introduction que j'ai lue tout à l'heure. Donc je sens de plus en plus l'importance de dire merci à quoi que ce soit qui arrive, y compris à des situations apparemment négatives. Et c'est repris dans des textes canalisés qui nous arrivent en provenance des Hathor, entre autres, mais d'autres. Ils soulignent l'importance de la gratitude et de développer cette gratitude dans le cœur, mais quotidiennement et régulièrement de dire merci pour qui je suis, de se rappeler à travers ça qui je suis. Je vois bien que quand mes vibrations sont élevées, mon aptitude à pardonner est beaucoup plus développée. Et je peux rayonner ça plus facilement. C'est comme si la gratitude, que je suis dans cette gratitude-là, l'exprimer, alors ça me permettait de rayonner beaucoup plus facilement qui je suis. C'est comme si ça s'engrammait dans mes cellules. Quand je dis merci. Donc c'est pour moi de plus en plus évident que c'est un moyen de me souvenir de qui je suis.
Je saisis l'occasion. Est-ce qu'on peut dire je peux dire merci pour ses propres faiblesses, par exemple. Moi, pour sortir de chez moi, j'ai toujours quelque chose à faire à la dernière minute. là, toujours quelque chose à faire, ou encore que je m'organise à sortir bien avant pour être à l'extérieur, mais je ne peux pas calculer l'heure juste. Souvent, je pense à la personne qui m'attend, et moi aussi, j'ai souvent une culpabilité. Dans ce cas-là, je ne peux pas dire merci. Il y a un travail à faire là-dessus.
C'est paradoxal parce que le merci, souvent au départ, il est théorique. Je peux me sentir mal, avoir vraiment dit autre chose, et puis je vais dire quand même merci. Pourquoi ? Dans le passé, on faisait ça parce qu'on avait peur de Dieu. Et donc on disait merci pour la maladie, merci pour le froid l'hiver, merci pour l'inconfort. Et il y avait derrière... une intention, c'était l'intention de plaire à Dieu et de dire, tu vois, comme je souffre pour toi, donc sauve-moi. C'est ce qu'on a fait avec les vœux de pauvreté et de chasteté. Et donc, les clés du royaume, comme dit Jayem dans son livre La voie de la maîtrise, bien, c'est une vision plus simple, plus vraie de qui nous sommes, de ce que nous faisons ici. Avec quatre étapes, la première c'est le désir. Et le désir est fondamental. Le désir il est partout. On peut dire que le désir c'est le moteur de toute création. Et le désir de Dieu c'est d'étendre l'amour, on peut dire. C'est, donc il y a la volonté ou le désir c'est pareil. La volonté de Dieu, la volonté une, et comme il n'y a que Dieu, c'est d'étendre l'amour, donc de donner à l'infini, de s'étendre à l'infini. Et donc, il est important et fondamental, car nous sommes Dieu, nous sommes puisqu'il n'y a que Dieu, d'accueillir notre désir. Et ça suppose d'accueillir tous nos désirs, y compris j'ai envie de sexe, j'ai envie de voler de l'argent, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de n'importe quoi. Comme l'enfant qui se joue et qui donc satisfait ses désirs autant qu'il peut. Et peu à peu, on apprend à l'enfant et on freine l'enfant, on le bloque. Non, ça c'est pas bien et ça c'est bien. Et ça c'est le monde de l'ego. Et ça paraît tout à fait raisonnable. Mais ça c'est le monde de la séparation. Alors, première étape, j'accueille tous mes désirs. Je peux même prendre une feuille de papier, écrire, faire des listes. Je vais me percevoir, je veux une glace. Je veux manger une glace. Je veux qu'un tel me téléphone. Je veux n'importe quoi. Je veux gagner de l'argent, je veux gagner au loto. Je veux donner, Je veux être bien, je veux communier avec la nature, n'importe quoi, tout sans aucune exception. Ça, je l'offre à l'esprit, mais je reconnais mes désirs. Ça, c'est la première clé, elle est fondamentale, d'arrêter de juger les désirs. J'ai une colère, j'ai envie de tuer quelqu'un, je reconnais que là, j'ai une colère qui monte, je me sens frustré, j'ai envie de me venger, ok, je reconnais ça. Mon désir, c'est de me venger, donc j'accueille mon désir. Première étape. Deuxième étape, ça va être l'intention. Et c'est là c'est ce que nous faisons de plus en plus, où on commence à clarifier notre intention, parce qu'avant on avait une intention qui était basée sur la séparation réelle, on est vraiment victime, il y a des gens en danger partout, donc on va les sauver. Tandis que maintenant, c'est pas ça l'intention, c'est nous avons choisi une expérience duelle qui n'est pas réelle. La vérité, c'est que tout est un. Et donc, en réalité, personne n'a de problème. Je n'en ai pas et mes frères non plus. Et donc, mon intention, c'est de voir cela, de vivre cela, de partager cela, d'être l'étoile du berger, comme dit le dernier message de Simon Leclerc, de la Fraternité Universelle, où nous laissons briller notre lumière et nous... Mais cette lumière, c'est... Tout le monde est sauvé, et je veux bien aider, mais c'est l'intention qui va compter. Et tout à l'heure, Avi a commencé ce groupe en citant une phrase du Courant Miracle, de ce chapitre 8 ou chapitre 4, qui est Jésus qui dit « Si vous voulez être comme moi, je vais vous aider. Si vous ne voulez pas, j'attendrai jusqu'à ce que vous, et il a dit que vous changiez d'esprit. » En fait, en anglais, c'est jusqu'à « until you change your mind ». C'est-à-dire jusqu'à ce que vous changiez d'avis. Il faut bien voir que changer d'esprit, c'est changer d'avis. Par exemple, je dis « tiens, je voulais venir, mais j'ai changé d'avis ». Mais en anglais, on va dire « I changed my mind », j'ai changé d'esprit. Donc, à chaque fois qu'il y a « change my mind » ou « change your mind », ça a été traduit dans la traduction de cours par « changer d'esprit ». Mais très souvent, ça veut dire « changer d'avis ». Donc, que ce soit bien clair. On n'a pas à changer d'esprit, à avoir un esprit artificiel, simplement. Je parle de ça parce que c'est l'intention. Donc, la deuxième clé. Première clé, le désir, j'accueille mon désir. Deuxième clé, mon intention, ce qui commence à se clarifier. Donc je clarifie mon intention, et mon intention c'est la vérité. C'est Dieu est, c'est mes frères et sœurs sont divins. Nous sommes tous lumière. En réalité, nous inventons des problèmes, mais tout le monde va bien. Donc c'est ça que je veux voir. Donc mon intention devient de plus en plus claire. Et donc ça c'est la deuxième clé. La troisième clé, c'est permettre. Permettre. En anglais, allowance. Permettre ce qui est, permettre ce qui se passe dans l'instant. Arrêter de vouloir bloquer les choses, changer ce qui est différent. Donc, permettre, je permets tout. Ça ne veut pas dire que je cautionne. Ça ne veut pas dire que je dis que c'est bien ou mal. Ça veut dire que j'arrête d'interférer, je permets. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas rien faire. Je vais écouter ma guidance, comme disait tout à l'heure Avi qui nous a cité ces cinq phrases. Et la phrase du milieu, c'est, la troisième phrase, c'est, je n'ai pas à me soucier de quoi dire ou quoi faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Donc je vais agir, mais sous guidance, sous l'esprit qui va me diriger, et j'ai confiance. Donc la troisième clé, c'est cette permission, permettre ce qui se passe. Et la quatrième clé, c'est s'abandonner. C'est s'abandonner. En anglais, surrender. S'abandonner. Je m'abandonne à quoi? Et c'est là que, justement, l'intention devient claire. Je m'abandonne au plan divin, qui est un plan parfaitement orchestré. De moi-même, comme dit le cours en miracle, je ne sais pas pourquoi les choses sont. Et le cours me dit bien, en réalité, tout est pour le meilleur de tes intérêts. Pour toi, bien sûr, et tous tes frères et sœurs, évidemment. Donc, je m'abandonne au plan divin. Encore une fois, s'abandonner, c'est un état d'esprit dans l'instant. Ça ne veut pas dire ne rien faire, s'abandonner. C'est-à-dire, je prends ma voiture, je bouge, je fais des choses, tiens, j'ai une intuition, je vais faire de la musique, je vais démarrer une association, je vais créer une société, je vais essayer de rencontrer telle ou telle personne, ok. D'accord. Donc, mais je le fais en m'abandonnant à la guidance divine. Et si ce n'est pas dans la guidance divine, je vais certainement changer de trajectoire. Le divin va me faire changer. Donc j'ai confiance. Donc les quatre clés, je les répète, les clés du royaume, je les répète, c'est premièrement le désir, j'accueille tous mes désirs, fondamental. Et le désir, c'est une dynamique, c'est l'essence de l'être. Et souvent les gens disent, mais le désir, c'est une distraction de Dieu. Et on nous a appris dans le passé à supprimer les désirs. Et on ne s'est pas rendu compte que là, on s'est bloqué dans un petit monde restreint, mesquin, un monde de séparation. Alors que nous sommes infiniment puissants, et nous avons un désir qui est là, qui veut partager l'amour, exprimer l'amour. Avec la deuxième clé qui est l'intention, une intention justement de la vérité. Et donc cette intention. Et la troisième clé qui est permettre, je permets à ce qui se passe, je permets au plan divin de se dérouler, je permets à mes frères et sœurs de suivre leur chemin parfaitement, et moi-même aussi. Et quatrième clé, je m'abandonne, l'abandon. Et tout cela, ces quatre clés supposent un cinquième ingrédient qui est l'humilité. Et l'humilité, qu'est-ce que c'est? C'est je ne fais rien. C'est l'esprit, c'est qui je suis qui agit à travers moi. C'est-à-dire que je ne fais rien de moi-même. Avec le petit je que je pense être, le petit corps là. Le petit corps que j'accueille totalement, je joue le jeu. Mais comme disait Jésus il y a 2000 ans, de moi-même je ne fais rien, c'est le Père en moi qui fait les œuvres, qui agit. Et donc, quand je me rends compte vraiment que je ne fais rien, mais l'humilité est naturelle. Est-ce que je vais me vanter d'avoir réussi quelque chose puisque je sais que je ne fais rien? C'est évident. Et c'est merveilleux parce qu'à ce moment-là, je me sens libre. Je dis, mais c'est merveilleux, je fais des choses, il y a des choses qui se passent à travers moi. Je suis utilisé, on me téléphone, bon, je fais ceci, cela, je réponds, je fais du pain si je suis boulanger, j'écris un livre si je suis écrivain, je fais ce que je fais, et on vient me dire, mais merci, ça nous aide, mais je sais que je n'ai rien fait. Je le sais vraiment. Et donc je ne peux pas me vanter, ça n'a pas de sens. Et je sais que je ne sais rien. J'aime bien ce sujet de dire, partager cette notion, la différence entre un étudiant et un maître, c'est que l'étudiant pense qu'il est étudiant par moment quand il est bien dans sa ligne, mais le maître sait qu'il est étudiant en permanence, tout le temps. On ne sait rien, je ne sais rien. Donc j'ai devant moi l'infinité divine, que je n'atteins jamais, je ne sais jamais qui je suis, mais je joue le jeu du divin et je laisse le divin me guider pas à pas dans mes expériences. Et c'est vraiment ça, et c'est ça dont nous parlons dans ces groupes de partage autour d'un courant miracle ou d'autres enseignements. Mais quelque part, il y a à l'époque actuelle, disons, un réalignement très fort, mais très simple sur la vérité, sur ce qui est vrai, sur, comme disait tout à l'heure Avi, sur la phrase que Jésus aimait, sur laquelle Jésus travaillait complètement, c'est Dieu est. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu, il n'y a que la source. Et donc tout va bien. Tout va bien. Et même quand, et pour répondre, justement, et je te comprends d'avoir posé cette question, quand je me sens mal, a priori, je n'ai pas envie de dire merci. C'est juste.
Non,
on a pas
c'est
envie.
Pas ça, c'est mais, pas ça. Non. J'allais intervenir, mais je voulais que tu termines.
Oui.
J'ai été très ravie d'entendre que Avi et à la fin nous disent que c'est bien que nous parlons de ce que nous vivons, notre vécu. Et c'est très bien parce que quand moi je peux parler de ce que je vis, je sors d'ici en ayant reçu de mes frères et sœurs leur point de vue sur un point précis. Moi, j'ai parlé. Et c'est quelque chose qui dure des années. Hein. Et je lutte avec, franchement. Donc, tu nous as donné beaucoup de vérité, mais je souhaiterais un avis, pas une réponse, parce que la réponse, je l'ai, et c'est à moi à trouver. Un avis sur le point du retard. C'est vrai que moi, j'ai appris par d'autres chemins toutes mes recherches spirituelles. Je dis naturellement merci, même quand je me blesse. Mais la question était celle-ci, je précise le retard, j'ai pas honte à le dire, c'est quelque chose dont je lutte tout le temps avec le retard. Est-ce que c'est juste de dire merci, que je, parce que je souffre pour la personne qui m'attend, je souffre ce rendez-vous et ça me donne de la peine. Donc c'est une erreur que je fais involontairement. C'est pas quelque chose qui est venu comme ça, donc il y a une correction à faire de moi-même. Je ne veux pas dire merci, je sais pas moi, bon, il est vrai que je le fais sans le vouloir. Merci d'être en retard, je sais pas moi. C'est là où je me demande si ça peut rentrer dans ce genre. J'ai saisi l'occasion de merci pour dire si ça peut... non, je ne dis pas merci sans le vouloir. Je ne devrais même pas me culpabiliser, mais c'est sûr, inconsciemment, je me culpabilise. Voilà.
Le hasard ne joue aucun rôle dans le plan divin. En fait, les petits personnages que nous sommes, nous ne faisons rien, on n'a pas le choix. Tu es en retard, apparemment. En fait, ça fait partie de ton rôle. Parce que quand tu es en retard et que tu sembles gêner une autre personne, et donc te gêner toi-même et gêner une autre personne, en fait, c'est un contrat, on peut dire, c'est une façon de parler, qui a été passé entre vous deux pour justement susciter cette expérience de retard. Et donc, effectivement, à ce moment-là, il y a merci. Mais maintenant, si tu me dis, ben oui, mais j'arrive pas, moi ça me gêne, ça me culpabilise, je dis, je te comprends. Nous connaissons ça très bien. De se sentir coupable, de gêner les autres, d'être en retard tout le temps, de, je sais pas, d'autres choses. Ça, d'accord, hein, on comprend.
Mais en réalité, en sortant de chez moi, si je suis à l'extérieur, il n'y a pas de problème.
Oui, d'accord. En réalité, tu joues un rôle parfait. C'est ça l'accueil que tu veux permettre. Le permettre dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est exactement ça. Et donc, ça paraît théorique, j'ai cité quatre clés comme ça paraît théorique, mais évidemment, pour moi, Sylvain, c'est vraiment de le pratiquer qui a un sens. Souvent, on me demande, mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai envie de dire, mais vous savez, moi, du matin au soir, du soir au matin, mon intention, c'est de pratiquer ce dont je parle. C'est évident. Il n'y a que ça qui a un sens. Donc, alors, effectivement, on pratique. Tout à l'heure, je racontais à la vie que, en venant ici dans ma voiture, j'ai reçu un appel d'une personne du centre de la France qui était en larmes et qui me dit « Je t'appelle parce que j'ai besoin de parler à quelqu'un. » Et c'est plus facile pour les autres, comme ça, d'aider les autres. Mais moi, je me sens désespéré, etc. Et il m'est venu une force. J'ai dit « Écoute, je suis en voiture, je ne peux pas trop te parler. » Mais une force pour lui dire « Bon, mais il n'y a que Dieu. » Et Dieu, c'est la paix, c'est la joie. Et là, apparemment, tu ne vis pas la joie. Et pourtant, tu es la joie, tu n'es rien d'autre. Donc, exige cela. Exige cette joie.
C'est sympa.
Tape sur la table. Vas-y. Elle s'est mise à rire. Elle était heureuse. Elle m'a dit oh, merci. Puis on a raccroché. Voilà. Voilà. Non, non, on parle de choses concrètes.
Et moi, je voudrais rappeler une chose que nous rappelons régulièrement ici, même si elle est loin d'être évidente pour la plupart des personnes. Toutes les situations sont neutres. Alors,
et qu'est-ce que tu entends par neutre?
Pas pour l'ego, bien sûr.
J'ai vu ça sur le site encore.
Neutre, ça veut dire...
C'est pas du droit, c'est du livre. Enfin bon, on peut définir, on peut clarifier notre compréhension.
Voilà. Par exemple, je suis amené à juger quelqu'un. Alors, c'est pas la personne... Qui pose un problème, c'est mon regard sur la personne. C'est pas la personne qui est difficile à accepter, c'est mon jugement qui me fait une difficulté. Donc la personne en elle-même est neutre. Ton retard est neutre. Sauf que avec la culpabilité, tu transformes ça, tu rajoutes un peu d'huile, de sel, de vinaigre, tu fais ta salade, tu mélanges... la culpabilité à une situation qui, par nature, n'est ni bien ni mal. Elle est. Comme Dieu est, cette situation est. Donc, on pourrait dire la situation aussi est pure joie, comme Dieu est pure joie. L'ego, lui, rajoute une couche qui dit « J'ai cru m'être séparé de Dieu et maintenant je me sens petit, maintenant je me sens responsable, maintenant je me sens coupable. » Je dois payer. Il s'ensuit toute une avalanche de choses désagréables qui traversent l'esprit faux, hein, qui traversent l'ego. Donc, quand je peux dire cette personne, ce retard, tout ça, c'est neutre, et c'est mon jugement à moi qui crée la difficulté et pas la situation, c'est une déclaration de liberté, au sens où si je veux changer de regard, je peux changer de regard, parce qu'il m'appartient le regard. Je peux demander aussi de l'aide au Saint-Esprit, à mon pur esprit, à la partie élevée de moi-même, pour voir correctement la situation du retard, la situation du jugement, pour voir en quoi cette situation, elle est bénie pour moi. Elle est bénie pour me rappeler qui je suis. Elle est une opportunité, une perche que l'univers ou le Saint-Esprit me tend pour me dire, regarde comme tu es béni. Hein? Regarde comment les parties qui ne sont pas pacifiées de toi, que tu vois autrement que dans l'unité, te sont révélées. Alors c'est une vraie bénédiction. Quand une partie non pacifiée m'est révélée, parce que je peux voir et guérir ce que je vois. Parce que ce que je ne vois pas, comment je pourrais le guérir, hein? C'est ça la bénédiction. C'est que tout d'un coup, regarde l'endroit où tu t'es séparé de Dieu. Tu le vois? Oui. Ben maintenant, choisis autrement. Choisis autre chose, puisque tu le vois.
Je dirais que ton ego te joue un tour, c'est-à-dire... Ton ego sait que si tu es en retard, ton ego sait que tu vas culpabiliser. Donc c'est l'occasion idéale de l'ego pour reprendre la main, et ça marche en plus à tous les coups. Donc c'est ton ego qui, par la distraction autour, te prépare un mauvais tour. C'est pour ça que tu es en retard. Observe le jeu autour du retard. tu vas t'apercevoir que probablement tu le disperses. Hein. Tu as des pensées qui passent, qui disent, mais en fait c'est ton ego qui te joue un tour pour reprendre la main. Parce que l'ego reprend la main par la peur, la culpabilité, la dévalorisation, par tous ces aspects-là. Et simplement en te disant c'est mon ego qui me joue encore un tour, tu vas progressivement le désamorcer. C'est un mécanisme qui est probablement complexe, qui se met en place, tu sais, plusieurs heures avant que tu as un rendez-vous, donc le mécanisme se met en place plusieurs heures avant. Et donc quand tu sais que tu as un rendez-vous, tu dis tiens, mon ego va me jouer un tour. Et tu peux, bon, des fois il te jouera un tour, des fois il ne te jouera pas. Parce que tu arriveras à échapper. Tu arriveras à être plus rusé que lui.
Moi, ta proposition, c'est.
Observe. Et tu sais que si tu sais que tu as un rendez-vous, tu sais que tu vas te débrouiller de manière ou d'une autre à te disperser pour être en retard. Et après, ton ego va te faire culpabiliser. Donc essaye de déjouer le piège tendu. C'est un jeu du chat et de la souris.
C'est difficile de parler de ça parce que qu'on dit par exemple c'est l'ego qui crée la situation. En fait, la situation est créée par l'esprit. L'ego, qu'est-ce que c'est ? L'ego, c'est quoi ? L'ego, c'est une croyance. Donc, c'est une façon de me voir, et évidemment, c'est une façon de voir les autres. Mais je parle de moi. C'est une façon de me voir. De me voir coupable, séparé, vulnérable, en danger, victime. Isolé, seul, identifié à un corps, menacé par le monde qui est extérieur, et un corps qui, tôt ou tard, va mourir. Il va disparaître. Donc, je vais mourir. Et ça, l'ego, c'est la croyance. Je suis identifié à l'ego. Et je ne peux pas venir ici, sur cette planète, faire cette expérience de dualité sans ego, sans cette croyance. Et donc c'est simplement, et j'ai choisi en pleine connaissance de cause parce que je suis divin. Et nous avons tous choisi en pleine connaissance de cause. C'est ce dont nous sommes en train de nous rappeler. Donc, j'accueille mon ego. Effectivement, je dis, tiens, mon ego me joue un tour. Pourquoi ? Mais mon ego, c'est mes croyances. Et je me sens vraiment victime, je me sens vraiment coupable, donc je vais être puni. Donc, quand je me sens coupable, je dis, mais je suis coupable. Et donc, il faut absolument que je contente Dieu, sans ça, il va me punir. Il faut que je contente mes frères et sœurs et que je fasse amende honorable, que j'aille dans telle religion, etc., pour essayer d'avoir un petit ticket pour le paradis, pour ne pas être trop puni. Mais bien sûr, c'est normal, c'est l'ego, ça. Donc, c'est cette croyance en un être limité que je crois être. Et donc, automatiquement, ça engendre l'attaque et la défense. Et quelque part, c'est faux parce que c'est pas qui je suis. Mais j'ai l'impression que c'est vrai. Et je suis dans cette expérience duelle, ici sur cette planète, où la plupart de mes frères et sœurs pensent de même, en apparence. Mais en réalité, tout ça est imaginé. Mais ça paraît vraiment réel. Et c'est imaginé par quoi ? Par la puissance que nous sommes, par la puissance divine que nous sommes. Donc au départ, c'est un jeu amusant. On s'amuse à avoir peur, pas avoir peur pour avoir peur, mais on s'amuse à projeter à l'extérieur pour essayer de se percevoir et s'identifier comme ça et jouer un jeu de personnage. Et c'est amusant quand on sait qu'on est le tout au départ. Mais quand on l'a oublié, ça devient plus amusant du tout. C'est pour ça que les hindous, les bouddhistes disent la vie est souffrance. Parce qu'il y a une souffrance profonde derrière. Parce qu'on a oublié qui on était. Et maintenant, nous allons vers le nouveau, où nous allons continuer à avoir un ego apparemment, dans cette expérience terrestre, mais il n'a plus l'impact. Et on lui a percé tous ses secrets, c'est bon. On sait qu'on est divin. Alors bon, on joue l'identification encore, on joue le jeu, très bien. On joue le jeu du sexe, de l'argent, des abondances, on s'amuse, on fait des feux, là, comme ce beau feu de cheminée. On décore une maison, comme le fait Ali ici, avec un lieu magnifique, et tout le monde est heureux, on joue le jeu. Mais on n'est pas dupe. Et comme disait tout à l'heure Ali, je peux faire tout ça, mais si c'est dans le but d'être heureux, c'est pas ça. Je suis heureux parce que je me rappelle qui je suis. Et donc je me laisse agir par l'esprit. Et à ce moment-là, j'utilise la loi, le secret, c'est-à-dire la loi de la manifestation, et on peut rire parce que cette histoire de secret, de loi de manifestation, mais on fait que ça, on ne veut faire que ça, on l'a toujours fait que ça. Et on croit à l'ego, donc on vit l'ego, c'est tout. Simplement, il y a une différence maintenant, et temporairement, comme on parle du secret, vous savez, le secret c'est je peux manifester ce que je veux par mes pensées, etc. C'est vrai. Mais pourquoi est-ce que ça n'est qu'une étape? C'est parce que je me considère toujours un ego qui manque, donc je vais pouvoir manifester de l'argent, je vais pouvoir manifester la relation idéale que j'attends avec un partenaire ou une partenaire magnifique et je vais enfin connaître le bonheur. C'est ça qui est secrètement derrière. Et ça, c'est pas qui je suis. Donc tôt ou tard, ça va capoter. Mais ça fait rien, ça fait partie d'un processus où je commence à comprendre que mes pensées ont vraiment un impact. Comme dit le courant miracle, il n'y a pas de pensée stérile. Toute pensée est réelle pour le penseur. Toute pensée produit un effet réel pour le penseur. Et donc, notre pensée d'ego, elle produit un effet réel. C'est pour ça qu'on se sent coupable et qu'on a peur. Ah bon? Ok, très bien. Alors, on en parle franchement. Et on arrête de juger l'ego. C'est neutre. Et quand tout à l'heure tu me posais la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire c'est neutre, ça veut dire c'est ni bien ni mal. C'est neutre. Ce qui est bien, c'est qui nous sommes et c'est le bien sans opposé. Et le mal n'existe pas. Ça semble exister dans ce monde. Ça semble, bien sûr. Il ne faut pas nier. En réalité, ça n'existe pas parce qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu est et nous sommes. L'expression de Dieu, la manifestation de Dieu, comme le soleil qui n'est que lumière, et puis il y a des rayons de soleil, tout ça c'est une image bien sûr, et nous sommes des rayons de soleil, donc nous sommes que lumière, et rien d'autre. Et on imagine être de l'ombre, des petits êtres séparés, vulnérables. Et nous vivons une expérience, mais nous commençons à comprendre que c'est nous-mêmes qui créons l'expérience, nous en tant que le divin que nous sommes. Donc, encore une fois, il y a un paradoxe énorme que le mental ne peut pas comprendre, c'est que nous sommes dans un jeu qui est joué par nous-mêmes en nous laissant totalement libres nous-mêmes. C'est énorme, hein? C'est ça le jeu. C'est pour ça que ça semble si difficile. Et c'est un jeu fantastique, c'est un jeu d'amour inconditionnel infini qui laisse l'ego, cette croyance à la séparation, qui le laisse, mais en même temps qui s'occupe en le respectant à l'infini, qui s'occupe de lui faire lâcher prise progressivement par justement des circonstances qui sont initiées par l'esprit d'amour que nous sommes. Mais évidemment, ça ne peut pas être autrement parce qu'il n'y a que l'amour. On ne peut pas imaginer un plan qui ne serait pas un plan d'amour infini puisqu'il n'y a que l'amour infini. Donc on est dans un quelque chose de fantastique, fantastique. Puisqu'il n'y a que l'amour infini, que Dieu, que l'amour. Et temporairement, on s'occupe de la peur. Et c'est pour ça que dans l'introduction du cours que tout à l'heure nous citait Avi, il y a apparemment un paradoxe, et j'aime bien le citer, il est là. Et dans l'introduction, il est dit l'opposé de l'amour et la peur. Je répète, l'opposé de l'amour et la peur, mais ce qui comprend tout n'a pas d'opposé. Or, ce qui comprend tout, c'est tout ce qui est, c'est Dieu. Qui n'est qu'amour. Donc déjà on voit qu'on est sur deux plans, un plan où on s'occupe du rêve, l'opposé de l'amour et la peur, dans le rêve, dans le monde duel, le monde de polarité, il y a le bien et le mal, le haut, le bas, l'amour et la peur, en réalité il n'y a que l'amour. Ce qui comprend tout n'est qu'amour. Mais ici apparemment il semble y avoir de l'ombre. Et quand on change d'esprit, eh bien, l'ombre disparaît. Et Avi aime bien citer cette image qui provient de Laurent Lévy, où si on a deux pièces qui communiquent l'une avec l'autre, bien fermées, une où c'est que de la lumière et l'autre c'est que le noir absolu, si on ouvre une porte entre les deux, eh bien, la lumière sera dans les deux pièces, parce qu'il n'y a que la lumière. Et l'ombre, c'est simplement imaginer qu'il n'y a pas de lumière, c'est tout. C'est une imagination. Donc le mal, la souffrance, la mort, c'est une imagination. Mais comme c'est imaginé dans un jeu qui est divin, qui est infiniment puissant, mais c'est très très bien imaginé. C'est incroyable. Et Jésus nous dit dans le courant miracle que c'est ça qui donne naissance à l'univers entier qu'on peut voir. C'est gigantesque comme de dire ça. Et c'est exactement ça. Parce qu'il n'y a que Dieu. C'est à cause de la vérité, de ce qui est la vérité. Et ça, si vraiment en méditation, on fait silence en disant, bon, vraiment, est-ce qu'il n'y a vraiment que Dieu? Est-ce que Dieu est tout ce qui est? Mais ça change tout à ce moment-là. Ça change vraiment tout. Wow, c'est pour ça que mais à ce moment-là, je ne sais rien et je laisse ce qui est me révéler lui-même. Et c'est moi. Et donc, je vais être dans un processus de révélation qui est infini. Et Jésus nous parle de ça et dans d'autres enseignements, on a ça. Et le mystère infini de l'infinité de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est infini. Mais c'est une merveille qui n'est jamais, qu'on ne finit jamais de découvrir. Et qui s'étend à l'infini. Ça ne s'arrête jamais. C'est éternel. Et nous sommes en train de nous le rappeler là. C'est très concret, c'est très concret. Alors, maintenant, ok, quand on parle comme ça, ça semble abstrait, mais pas du tout. Par exemple, pour revenir à ton exemple, bon ben moi je suis perturbé parce que je suis souvent en retard, et puis je gêne les gens, etc. Ok, ben j'accueille ça. Et je l'offre à l'esprit. Je l'offre à l'esprit en disant, voilà, ça me perturbe, mais on me dit qu'il semblerait que c'est un jeu parfait. Mais si c'est un jeu parfait, c'est, ça sert à tout le monde, à moi-même comme aux autres. Donc j'arrête d'intervenir et j'accueille ce jeu-là. C'est fort, hein, parce qu'on a l'impression que c'est pas gentil pour les autres, parce que j'accueille mes retards, j'arrête de me culpabiliser. J'arrête. Je suis en train de conduire ma voiture sur le verglas, je glisse, je heurte un piéton et je le blesse. Pour pas dire autre chose d'ailleurs, mais eh bien, j'y peux rien. Quelque part, ce piéton a choisi son expérience, comme moi j'ai choisi mon expérience. Et tout est comme ça. Effectivement, c'est vrai que souvent quand on parle comme ça, au nom de la vérité, on peut être taxé de sans-cœur, de fou. C'est vrai, c'est vrai, c'est absolument vrai. Et pourtant, et là nous avons un cours en miracle. Et que quand j'accueille vraiment ça dans mon cœur, quand je fais totalement confiance, ça suppose la mort à soi-même. C'est ce que disait Jésus il y a 2000 ans. Et son message était très fort. Il a très peu été compris. Il a été compris, bien sûr, parce qu'il dégageait une aura de vérité. Et donc ça a créé, ça a développé sur la planète une énergie considérable, avec le Graal, etc. Mais ce n'est pas un petit message, ce n'est pas un message mièvre. C'est un message très puissant, radical. Dieu est Dieu, la vérité est la vérité, l'illusion est l'illusion. Fort. Et on est là-dessus, on n'a pas le choix. C'est ce que nous dit Jésus, il nous dit, que vous y croyez ou non, c'est comme ça. Vous êtes divin. Et donc, comme il n'y a que Dieu, il n'y a que ça, donc vous êtes tout le temps créateur. Et vous n'imaginez pas le pouvoir créateur que vous avez. Vous êtes tous en train de créer, tout le temps. Et c'est pour ça que le monde, un sage, il dit, mais le monde va très bien, parce qu'il voit justement que sur cette planète, les 6 milliards 800 millions que nous sommes tout le temps en train de créer ce monde, et nous sommes en communication les uns avec les autres, en accord avec l'esprit que nous sommes, pour créer exactement ce monde-là en fonction de nos croyances, en fonction de notre ego. Et pourquoi est-ce que l'univers a les yeux fixés sur nous? C'est parce que nous sommes en train de nous réveiller au milieu de cette pénombre, de ce noir presque absolu. Et l'univers, et ses merveilles, en disant, mais c'est incroyable de voir ce travail que vous faites. C'est vraiment ça. Alors on va dire, oui, mais ça c'est de la théorie, très bien, etc. Mais dans ma vie pratique, c'est justement là que ça se passe. C'est dans mon cœur, parce, pourquoi? À cause de qui je suis. Donc je suis responsable de mon état d'esprit, de ce que je choisis. Accueillir tous mes désirs, comme je disais tout à l'heure, accueillir mon intention, clarifier mon intention, permettre ce qui se passe, permettre enfin au plan de se dérouler et m'abandonner au plan de en laissant faire l'esprit à travers moi, encore une fois, comme disait Jésus il y a 2000 ans, ça n'a pas été bien compris, mais de moi-même, je ne fais rien, c'est le Père en moi qui agit. Donc c'est très fort, ça. De moi-même, je ne fais rien. Donc tout ce que je peux savoir, je peux avoir des diplômes, je peux avoir plein d'argent, etc., je ne fais rien. Je ne sauve personne. Même si si je suis guidé, ok, je vais dépenser mon argent, aider quelqu'un, d'accord, très bien, je suis guidé à le faire. Mais je ne sauve personne, je ne peux pas sauver. Pourquoi? Parce que tout le monde est sauvé. Il n'y a personne à sauver. Comment il n'y a personne à sauver? Mais il y a des vies humaines, mais on n'est pas le corps. Le corps cesse de fonctionner dans un temps illusoire. Mais il n'y a personne là. Il y a 6 milliards 800 millions de corps qui se baladent sur cette planète, mais il n'y a personne. Voilà le message non duel, c'est pas évident. Pourtant, les bouddhistes n'ont pas cessé de parler de ça. Et ça n'empêche pas que nous sommes invités justement à jouer ce jeu à fond et à aimer cette vie, ce rêve. Et à se dire, mais c'est merveilleux d'être ensemble, justement, de se parler, de manger ensemble, comme on est là dans ce groupe ici, de parler, d'échanger, de se téléphoner, de s'aimer, de communier ensemble, de pouvoir vraiment ressentir l'amour dans nos relations. Magnifique. Donc, il y a un grand paradoxe quand on parle de la vérité, quand on parle de ce qui est réel, de la non-dualité. Très souvent, pendant longtemps, c'est interprété comme une fuite de l'expérience terrestre. Mais pas du tout, au contraire. C'est l'embrasser totalement, dans tous ses détails. Et c'est vrai que ça peut faire très peur par moments. Parce que si on embrasse vraiment tout, dans tous ses détails, en accueillant tout, bien, quelque part, je deviens vulnérable aux fausses croyances que j'ai sur moi-même. C'est ce que disait Jésus en disant ce qu'il appelait la mort du vieil homme. C'était traduit comme ça. Donc voilà, ça fait du bien de le dire et moi j'adore ces groupes parce que ça nous permet de revoir ça ensemble, de le partager et ça devient davantage vivant quotidiennement dans notre vie.
Il me vient très fortement une phrase. En rapport avec ce que tu disais, Isis, cette phrase c'est « Je ne fais que des choses qui aident, même si je crois autrement. Je ne fais que des choses qui aident parce que, comme vient de le dire Sylvain de plein de manières différentes, tout ça, ça a été décidé par moi en tant que pur esprit dans un plan qui est fait pour le meilleur de chacun d'entre nous. Donc oui, avec la vue de l'esprit saint, je ne fais que des choses qui aident. Quand je suis en retard, si quelqu'un en face de moi réagit, alors ça aide, parce qu'il voit qu'il y a un endroit où il est poussé à amplifier l'illusion, à voir qu'elle n'aurait pas dû être en retard. Avoir les choses différemment. Donc, avec une vue, une interprétation du Saint-Esprit, je ne fais que des choses qui aident, donc je suis innocent tout le temps. Cette phrase-là, elle est fondamentale. Quoi que je fasse, je suis innocent. Même si j'ai tué apparemment des gens, même Hitler, il est innocent. Parce que dans ses actions qui semblent horribles, il a aidé des gens à se réveiller à eux-mêmes, à entrer dans la compassion. Il a initié des mouvements pour la paix, pour arrêter ce jeu-là de vie et de mort que nous jouons ici. Mais lorsque cette phrase elle est interprétée par l'ego, je ne fais que des choses qui aident, alors l'ego se révolte, en disant « Mais non, t'as pas vu, j'ai fait une chose, j'ai gêné quelqu'un, j'ai mis en retard quelqu'un d'autre, j'ai dérangé. » Mais sur quoi elles se basent ces réactions-là? Sur la culpabilité. Si j'étais pas déjà dans le sentiment d'être coupable, je pourrais pas réagir comme ça. C'est ma culpabilité, sous-jacente qui me fait réagir en disant j'ai fauté, je suis en retard et j'ai fauté. Parce que si j'avais le sentiment d'être innocent maintenant, alors je suis en retard, ça ne me ferait ni chaud ni froid. C'est parce qu'il y a déjà la culpabilité que le retard vient confirmer la culpabilité. Je vais prendre un autre exemple que je cite souvent. Quelqu'un me dit « tu es nul ». Paf, l'ego va mal encaisser. Hein. Mais l'être en paix que je suis, ça va lui faire ni chaud ni froid. C'est neutre. Pour lui, c'est neutre. Tu dis « t'as envie de dire ça, bah, dis ça ». T'as envie de dire que je suis magnifique, dis-le aussi. Et ça aussi, ça me fait ni chaud ni froid. Si j'étais en paix complètement, hein, en paix, c'est aussi innocent, innocence totale, absolue. Hein. Je suis le Saint-Fils de Dieu, de quoi pourrais-je avoir fauté, hein. Donc, c'est une phrase dont je peux me rappeler. Quand je me rappelle mon innocence, alors, quoi que je dise et quoi que je fasse dans cette illusion, va aider quelqu'un d'autre, même si en apparence, je crois autre chose, je crois autrement. Parce que c'est un plan divin. Donc j'ai besoin de me rappeler que je suis innocent. C'est ça l'utilité du retard. Tant que tu crois que tu es coupable, alors le retard va te rappeler que tu te sens coupable. Et donc bravo! Parce que si je me rappelle que je me sens coupable, je peux essayer aussi de me rappeler que je suis la sainte fille de Dieu, et qu'à aucun moment il ne s'est rien passé, je n'ai pas commis de faute, je ne suis même pas séparé comme je le crois, je suis toujours innocence pure. Et que je sois en retard ou pas, ça ne change rien à cette innocence, elle est ma nature, elle est fondamentale. Donc ça invite vraiment ce retard-là à une guérison de l'esprit. Et en ça, c'est béni. Tant que je pense avoir fauté, j'ai un esprit que l'interprète de la situation, c'est l'ego. Et quand je peux donner en interprétation cette situation à l'esprit, il va me dire, il ne s'est rien passé. Tu fais ça parce que tout ce que tu fais aide, donc ton retard va aider, c'est un accord tacite, comme disait Sylvain, entre vos âmes pour dire... Toi, tu joues le rôle de celle qui est en retard. Toi, tu joues le rôle de celui qui est dérangé par ce retard. Jouez la scène, allez-y, hein, on y va. C'est neutre. On y va, et dans le scénario, il y a l'autre, il s'énerve. Dans le scénario, l'autre, il dit, tu m'as fait perdre mon temps, mais pourquoi? Mais tu devrais me respecter, mais arrive à l'heure la prochaine fois. Voilà. Tant qu'il y a des réactivités, c'est que j'ai donné... en interprétation cette situation à ce qui se sent séparé. Et j'ai besoin, comme disait aussi Alain, de voir qui interprète la situation. Qui l'interprète? Quand je vois qui l'interprète, je suis sauvé. Parce que je vois qui l'interprète, je peux dire, ah ben tiens, cet interlocuteur-là, cet interprète-là, sa façon d'interpréter ne me rend pas heureux, heureuse. Mais quand je donne cette situation à interpréter au Saint-Esprit, il va dire, tu es dans la main de Dieu, Isis, il ne s'est rien passé, tu es innocente. Ce retard n'a aucune implication sur ton innocence. Tu as été, tu seras, tu es toujours à jamais innocente. Donc cette phrase-là, ça peut être un antidote à l'ego. Quand je crois que j'ai fauté, je suis pure innocence. Il ne s'est rien passé. Hein. Je ne peux réagir avec culpabilité qu'à l'endroit où je me sens déjà, avant même cette situation, coupable. Donc j'ai besoin de guérir ça, de guérir l'esprit qui se sent coupable. Et la première des culpabilités, c'est celle qui dit... J'aurais pas dû quitter la maison de Dieu. Je crois que je l'ai quittée et je crois que j'ai fait une faute. Alors que j'ai décidé de rêver un instant, alors j'ai décidé de me dire qu'est-ce qui se passerait si les choses n'étaient pas ce qu'elles sont. J'ai le droit de dire ça, j'ai le droit de penser ça, j'ai le droit de rêver ça avec toutes les conséquences apparentes. de ce choix-là. Mais il n'en reste pas moins que c'est un rêve. Il n'en reste pas moins que, dans la réalité, Isis n'a jamais été en retard. Bon, ça, ça peut être un antidote aussi. Comment les choses... Ah, voilà, ça réagit tout de suite. Comment les choses seraient interprétées dans le royaume, hein, ça peut être, quand je me sens très mal, comment cette situation peut être interprétée dans le royaume? Tout va toujours très bien. Et je suis tout le temps, en permanence, de manière éternelle, innocent, à jamais. Je suis en train de m'amuser là, à croire des choses. Voilà, c'est pas évident parfois d'en noyer dans le jeu du quotidien, hein, dans ce jeu-là, acte 1, scène 1, que je joue, mais si je peux prendre un temps soit peu de recul, c'est-à-dire après que la situation se soit passée, lorsque je laisse les choses se décanter, lorsque je reviens à la sensation du jeu, c'est-à-dire que, ah oui c'est vrai, j'étais en train de jouer, mince, j'avais oublié que j'étais en train de jouer. Alors là, je reviens à ça, et je peux demander au Saint-Esprit, dis-moi en vérité ce qui s'est passé. Hein? Là, alors que je croyais avoir fauté, dis-moi ce qui s'est passé. Mais tu es innocente, chère fille. Tu as toujours été innocente. Donc, en effet, nous l'avons oublié, l'innocence. En effet, nous avons cru avoir fauté, mais c'est le sens de ces petits indices, comme un courant miracle que nous avons placé sur notre route. Et je sens très fort que quand je croise ce livre, je ne sais pas comment je l'ai croisé, hein, mais il est apparu sur ma route, à un moment donné il est apparu, celui-là ou un autre, ou Krishnamurti, ou Dialogue sur l'éveil, ou la Bible, ou n'importe quoi. Quand je croise ça, c'est moi qui l'ai mis sur ma propre route pour me dire, Avi, rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi que tu joues là, tu es en train de jouer, tu es en train de rêver. Donc c'est rien de tout ça n'est dû au hasard, hein, c'est soigneusement planifié. Pourquoi ? Pour le plus grand bien de tous. Donc je ne fais que des choses qui aident et tout le temps, en permanence. Même si mon ego croit l'opposé absolu de ça. Hein, parce que personne ne meurt jamais, personne n'est jamais contrarié et Dieu ne prend pas rendez-vous chez le dentiste. Parce que Dieu n'a pas mal aux dents. Voilà, et moi non plus, j'ai jamais mal. Sauf quand je me convainc dans mon rêve du contraire. Et je voudrais dire une seconde chose qui m'est apparue tout d'un coup. Il y a une chose qui est difficile à entendre pour l'ego, c'est « je ne sais rien ». Je ne sais rien, ou alors par moi-même, je ne fais rien. Je ne fais jamais rien, je me laisse diriger. Alors l'ego, et même mon ego, dans le filigrane que je ressens encore de cet ego-là, puisque je suis encore dans la croyance que je suis dans le corps, mon ego va dire, mais alors t'es un pantin à vie, mais rebiffe-toi, vas-y, dis-lui que c'est toi qui fais, c'est pas le Père qui fait à travers toi. Mais à quoi je sers alors? Voilà, c'est l'ego hein, qui se rebelle là, dans ces cas-là. Si je suis juste un canal à travers, mais alors ça ne sert absolument à rien. Et il y a une phrase que j'ai entendue d'un poète soufi qui dit quelque chose de similaire sous des mots, sous une forme différente. J'aime beaucoup cette phrase. Hein. Nous sommes un bambou creux, un roseau creux, à travers lequel Dieu joue sa musique en nous. Voilà, ça me pacifie énormément comme phrase. Je suis l'instrument de Dieu, l'instrument magique, l'instrument qui fait de la musique divine. Je suis celui par lequel les opposés de la dualité peuvent sembler s'installer pour jouer la musique de Dieu, pour jouer le chemin du retour. Et je suis un moyen, hein. Quand je suis ça, je suis bien loin d'être un pantin, hein. Je suis le canal, hein. Le canal, ça me paraît une bonne un terme qui dit ça va de la source par le canal, hein. Comme l'eau coule dans un fleuve, je suis le canal par lequel l'énergie de la source s'exprime et s'étend. Et dans s'étend, il y a ce qu'est Dieu. Hein. Dieu s'étend tout le temps, à l'infini, en permanence. Et moi, je sers cette extension. Donc, il y a un plan divin qui se réalise à travers ce rêve, à travers cette expression que je crois être dans ce monde vivant. Donc, en effet, je ne sais rien, hein, et je laisse l'énergie divine s'exprimer à travers moi, parce que je suis ça, hein, je suis l'énergie divine. Je suis l'extension, le Fils de Dieu, le rayon du soleil, comme disait celui-là. Donc, l'ego cherche à être utile, l'ego cherche à exister à travers des manifestations. J'ai fait ça et c'est bien, j'ai pas fait ça et c'est mal. Hein. Et à travers ces oppositions-là, l'ego a l'impression d'exister. Hein. Mais lorsque je dis « je ne sais rien », en effet, c'est une menace de mort pour l'ego. Hein. C'est la dissolution, puisque, en effet, il n'y a pas d'utilité à l'expression dans le sens de la séparation. Voilà ce que je sentais de dire en réponse à mon ego qui disait oh, ouais, est-ce que ça me plaît, moi, cette phrase bof, hein, bof, moyen. Voilà, j'adore prendre mon ego la main dans le sac. Voilà. La main dans le sac en train de commettre la séparation maintenant. Hein. La séparation est perpétuée à chaque seconde par mon ego. Mais je peux le voir, je peux en rire aussi, parce que c'est pas réel.
En fait, le corps, c'est la manifestation de l'ego. Donc, on pourrait se pardonner tout le temps.
Magnifique.
Et pas forcément pardonner quand on fait quelque chose. Pardonner déjà d'être là.
Absolument.
Oui, merci d'être là. Il faut pardonner.
Parce que c'est par le pardon qu'on...
C'est pas une erreur d'être là. Oui, merci
non.
D'être là.
Justement, il ne faut pas pardonner quand on est... Quand on a l'impression d'avoir eu quelque chose, il faut pardonner la partie de nous qui ne sait plus qui elle est, qui ne sait pas qu'elle n'a rien fait. Wow. C'est cette partie-là.
Super, je ne pourrais pas dire autre chose, oui. Super.
Le pardon, c'est vraiment... Il n'y a rien à pardonner. C'est-à-dire, le pardon, ce n'est pas donner une réalité à quelque chose. D'ailleurs, le cours nous dit bien, c'est une illusion. C'est la seule illusion qui nous aide à sortir de l'illusion. C'est fort, il n'y a rien à pardonner en fait. Et, pardon, c'est lâcher ses croyances au sujet du bien et du mal, ou de l'attitude de quelqu'un, ou d'une menace, ou d'une culpabilité. C'est lâcher tout ça. Ça le pardon. Et c'est très joyeux, c'est très libérateur. Le pardon, c'est pas quelque chose qui est pénible. C'est une source de joie, de bonheur, de liberté incroyable.
Ne plus avoir besoin justement de la croyance, ne plus avoir besoin de la rancœur, ne plus avoir besoin. On n'a plus besoin. Donc, comme on n'a plus besoin, ça sert quand même des vieux trucs.
Et le pardon, c'est juste voir différemment. Donc, c'est pas pardonner parce qu'il s'est passé quelque chose de mal. Je vois différemment. C'est-à-dire, je ne tends plus le micro à l'ego, je le tends à l'esprit juste. À l'esprit juste qui va me dire, ben, regarde qu'il ne s'est rien passé, regarde que tu es innocent, regarde que tu n'es pas un corps, regarde que tu es éternel, et ris. Et ris parce qu'il ne reste plus que le rire, il ne reste plus que la joie. Quand il n'y a plus de mal, il n'y a plus que le bien sans opposé. Comme disait Sylvain, je suis le bien sans opposé, qu'est-ce que je pourrais bien faire de mal? Alors que dans cette réalité-là, il n'y a pas de mal. Le mal n'existe pas, je suis le bien absolu.
J'ai pas besoin de faire tout ça.
J'ai rien besoin de faire. D'une manière, c'est une leçon du cours. Vous n'avez rien besoin de faire. Donc je peux me détendre. Mais c'est vrai que
c'est bien
de resituer le mot pardon dans le contexte de la non-dualité. Hein. Pardonner, c'est voir d'une manière juste la situation. D'une manière juste, donc je crois être dans un corps. D'une manière juste, je ne suis pas dans un corps. Je crois que l'autre m'a attaqué.
Parce que si on pardonne, justement, quand quelqu'un nous a fait quelque chose, c'est qu'on a reconnu cette chose et on est dans la réaction. Donc, on est dans la défense. Si on est dans la défense, c'est que on n'est pas au bon endroit, je pense. Donc quand on pardonne là, déjà on se trompe. Ou je me trompe.
Mais c'est pas le pardon, ça. C'est pas le pardon dont on parle. C'est le pardon du monde, c'est le pardon de l'ego. Qui consiste à.
Bon, je cafouille encore un peu, je me mélange un peu avec le pardon, je te pardonne, je me pardonne, je sais. Des fois je sais plus qui, alors je pardonne tout le monde. Ça, c'est. Comme ça, moi, je pense que dans l'ensemble, je fais partie du lot. Je suis sûr d'être dedans.
Non, mais merci, parce que effectivement, on parle tout le temps du pardon, mais la plupart du temps, c'est interprété à tort, parce que c'est pas évident. On est tellement habitué à cette notion de péché, de faute, de la réalité, voilà, de l'erreur, que le monde va mal, qu'il faut que les gens sont victimes, qu'il faut les sauver, etc. Que pardonner, que Hitler était un méchant, que Monsanto c'est des méchants, etc. Comme ça, l'infini. Y compris dans les familles, d'ailleurs à l'échelon individuel, dans nos relations dites personnelles, eh bien, le pardon, c'est pas ça. Le pardon, c'est pas l'autre a fait quelque chose de mal, je lui pardonne parce que je suis bon. C'est pas du tout ça, le pardon.
Non, enfin, ou encore, moi je le dis comment je le ressens aujourd'hui. Moi je le dis vraiment avec plaisir, en ayant la reconnaissance d'en prendre conscience. Parce qu'il y en a qui ne savent même pas qu'il faut dire pardon. Avant, il y a peut-être 10 ans, moi, je me demandais pourquoi je dois dire merci. Et maintenant, je dis merci avec reconnaissance de la prise de conscience juste de que ce qui se passe me donne une leçon pour apprendre, pour me permettre de me guérir.
Oui.
C'est-à-dire, ce n'est pas en me culpabilisant ou en. Au contraire, je me remets un petit peu en valeur, si tu veux, entre guillemets, par cette connaissance juste qui me permet de pardonner. Je ne pardonne pas comme moi étant catholique de naissance, où j'allais à la confession pour dire pardon, j'ai commis un péché, pardonnez-moi. C'est pas ça. Pardonne parce que je suis fière de me le dire, parce que je le connais, je sais que c'est une vérité, sans culpabilité en tant qu'enfant de Dieu. Je pardonne, je me pardonne, je pardonne l'autre et nous nous libérons tous, voilà. Et puis, ça me libère. Si tu le dis vraiment avec conscience, ça libère vraiment. Ça te libère et ça libère l'autre. Sans souffrance, non, dans ces cas. La souffrance de mon retard, c'est que ça dure longtemps. J'ai toujours à balayer à la fin minute.
Et en même temps, tu en ris. Parce que c'est pas hyper. C'est le jeu divin, là.
C'est sûr que l'humour joue un rôle important parce que quand on voit justement la manœuvre de l'ego, quand on voit que ça revient tout le temps, mais qu'on le voit avec des yeux différents, c'est très drôle. Quelle bonne blague! Ça, c'est infini, ça semble infernal, etc. Il n'y a rien là-dedans.
Mais c'est vrai, quand on comprend bien, ça devient vraiment l'amour, un jeu. Et c'est à ce moment-là qu'on dépasse. C'est parce que quelque part, j'ai bien compris ce que tu as dit, même si tu as utilisé le mot ego que je n'ai pas accepté, mais j'ai compris le message. C'est-à-dire que moi, déjà, je prévois, je ne dois pas être en retard. Ça, c'est mon problème. Et là, effectivement, et c'est là que je dois lâcher, comme je dis. J'ai compris ce que tu as voulu dire, parce que moi, sachant que c'est une erreur, je le prévois d'avance, et puis ça, c'est ça. Là, j'ai compris ça comme ça.
Dieu ne s'oppose à rien, et je suis Dieu. Quand je dis ça, j'ai tout dit. En face de n'importe quelle situation, Dieu ne s'oppose à rien et je suis Dieu. Je suis l'extension de Dieu. J'ai tout l'héritage de Dieu. Donc, je ne peux pas m'opposer à quoi que ce soit. Si je le fais, je peux le faire qu'en dormant, c'est-à-dire qu'en l'imaginant, qu'en m'illusionnant. Hein. Donc, dès que je réagis, je suis en train de m'opposer à ce qui est. Et il n'y a pas d'opposé à ce qui est. C'est la grande vérité, c'est ça. Il n'y a que ce qui est. C'est ça la non-dualité. Ce qui est, Dieu est, et il n'y a pas autre chose, sauf dans l'esprit faux. Donc, pardonner, c'est se rappeler ça. C'est joyeux. Hein. C'est pour ça que le pardon est joyeux. Je me rappelle que je ne peux m'opposer à rien parce que je suis déjà le tout. Et celui qui est en face, apparemment, il est aussi comme moi. Il est dans le même un que moi. Donc, si je m'oppose à lui, je m'oppose à moi. Et ce n'est pas possible parce que je suis tout. Je suis tout. Comment le tout peut s'opposer au tout? C'est inconcevable, c'est impossible à imaginer même. Donc, c'est utile de temps en temps de me rappeler que je suis tout ce qui est, moi. Moi qui me crois séparé, je suis tout ce qui est. Je suis l'expression, la manifestation de tout ce qui est. Et donc, même si je pense pouvoir le faire, je ne peux m'opposer à rien.
Je ne peux m'opposer à rien. Et justement, c'est tout à fait ça la vie. Et en repensant à toi, Edith, avec cet exemple du retard, moi j'ai eu le bonheur de vivre une relation d'assez longue durée, parce que j'en avais besoin, avec une femme qui était apparemment systématiquement en retard. Je dis bien apparemment. Parce que comme il n'y a aucune erreur, bien à chaque fois qu'il y avait vraiment le retard et que j'étais là, et il y avait une voix qui me disait, est-ce qu'il y a une erreur ou pas? Non, il n'y a pas d'erreur. Et je ne cesse de dire que de toute façon, tout se fait à l'heure juste. Donc si nous arrivons en rendez-vous une heure en retard, ça sera l'heure juste. Si nous arrivons un quart d'heure en avance, ça sera l'heure juste. Et ce n'est pas une plaisanterie. Et donc ça m'a libéré avec des tas d'expériences précises où tout d'un coup on sursaute, on a une réaction, mais quand même on sent que ce serait la moindre des choses de faire un peu attention depuis le temps qu'on prévoit ce déplacement, etc. Des choses comme ça. Et à chaque fois, c'était parfait. Et évidemment, l'esprit est malin, entre guillemets, parce qu'il est même rieur, parce qu'il m'a montré des situations où, justement, par exemple, on partait en retard, j'étais pris dans un embouteillage, et j'ai vu après que c'était fait exprès pour que, justement, je sois au premier rang, parce qu'il n'y avait plus de place, donc à ce moment-là, j'étais obligé d'être au premier rang, et d'avoir un contact très fort avec le conférencier, d'avoir quelque chose de précis. J'étais émerveillé. Voilà, c'est un petit exemple, mais j'ai vu que c'était toujours comme ça. J'insiste bien, parce que c'est pas parce que souvent on partage un exemple comme ça, et là je peux vous dire, même c'est très très précis, c'est avec quelqu'un d'assez connu, ça s'est passé un jour, c'était sidérant, stupéfiant, j'étais émerveillé, mais c'est toujours comme ça. Ça qui est important, c'est toujours comme ça. Et quand on partage une expérience comme ça sur un point particulier, souvent c'est interprété en disant, ah oui, ça c'était un beau... C'était, ce jour-là, c'était un coup de chance. Mais c'est pas toujours comme ça. Eh bien si, c'est toujours comme ça. Et ça, c'est une leçon formidable. Et quand je disais que j'ai donc eu la joie, le bonheur de vivre avec quelqu'un qui a été attiré à venir vivre avec moi une relation où cette personne était tout le temps en retard, apparemment, je me suis perçu peu à peu qu'elle n'était jamais en retard. Et que c'était toujours l'heure parfaite. Mais quelle libération! Quelle joie! Quelle extraordinaire! Et parce que finalement, mais voilà, rien n'est important, tout est neutre, comme disait Abby tout à l'heure, tout est neutre. Donc, on va quelque part, si on rate le spectacle, si on rate je ne sais pas quoi, si on arrive en retard, c'est neutre. Oui, mais si on arrive, on va chez des gens qui aiment bien qu'on soit à l'heure, ok, ils aiment bien qu'on soit à l'heure. Mais ce n'est pas de l'amour alors de ne pas faire attention, être bien à l'heure pour la personne. Attention, l'amour ne consiste pas à faire plaisir. L'amour consiste à aimer, c'est-à-dire à accueillir le chemin des autres. C'est pour ça qu'on nous dit quelquefois...
L'amour ne consiste pas à faire plaisir.
Oui.
Non mais c'est fort, parce que moi j'aurais tendance, tu vois, parce que tu es en retard, je suis le côté face, je suis le côté pire. Hein. De toute ma vie, j'étais à l'heure, et ça a été une guerre tout le temps. Maintenant, j'ai tellement lâché que je m'en fiche d'un retard. Mais ça embête les autres si tu veux. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai, j'ai tendance à croire que j'essaie trop de me mettre à la place des gens. Les gens, mais il va pas être content, ou il va être content, ou ça va l'embêter. Et finalement, moi, je me mets dans... Ça me tord, parce que moi, pour faire plaisir à quelqu'un, eh bien, je finis par plus être moi, en fait. Et eh ben moi, j'oublie ça. Moi, j'oublie que l'amour, c'est pas ne faire que plaisir, mais, comment tu as dit, c'est accueillir.
C'est accueillir l'instant présent comme parfait. Et c'est accueillir les rôles. Parce qu'on croit que les petits personnages que nous sommes décident des choses. Mais non, les situations sont créées par l'esprit que nous sommes. C'est pour ça qu'on parle de ce plan divin. Et quelque part, les petits personnages que nous pensons être n'ont aucun contrôle sur le plan divin. C'est trop trop puissant, puisque tout est causé, tout est en symbiose. Donc, si je reviens à cet exemple de cette femme à côté de moi qui était apparemment en retard, elle n'y pouvait rien. C'était quelque part un contrat qu'on avait passé, et c'était le cadeau extraordinaire qu'elle a pu me faire d'arriver, de jouer ce rôle, et peu à peu, de trouver de la joie, alors qu'avant, ça m'agaçait. Et je me suis aperçu qu'effectivement, il ne s'était rien passé. Et que même s'il y avait des gens qui pouvaient être fâchés parce qu'on était en retard ou pas, c'était fait exprès. C'est pour ça qu'on nous dit ne vous inquiétez pas si vous semblez avoir des rôles dérangeants. Parce qu'on oublie que c'est nous-mêmes qui créons tous les rôles. Et donc quand on semble avoir un rôle dérangeant, si j'ai un rôle dérangeant pour une personne, eh bien cette personne-là, en fait, j'ai passé un contrat avec elle dans l'amour. Je peux vous dire, comment ?
L'histoire d'Hitler reprend tout son caractère par rapport à ça.
Absolument. Hitler n'y pouvait rien. Hitler est un produit de la conscience de l'époque, c'est tout. Auquel tout le monde participe, on participe au jeu. C'est l'histoire d'Arjuna qui va couper des têtes, etc. On ne comprend pas ça, ça paraît bizarre. Je sais que ce n'est pas évident quand même, mais c'est pourtant ça. On joue des rôles parfaits. Et je me souviens, et ça je n'oublierai jamais, et j'aime bien le partager ici, peut-être que certains qui vont entendre cet enregistrement peuvent l'écouter dans leur cœur, ce que je vais dire. C'est que j'avais une amie à côté de moi, très médium, et qui un jour a eu une expérience, et j'étais au téléphone avec elle, elle était dans le sud de la France, moi j'étais à Paris, et souvent on se parlait à peu près 2 heures par jour en moyenne à cette époque, et tout d'un coup elle me dit « je vis une expérience extraordinaire ». Je venais de parler, et là on était un peu monté en vibration, comme disait Avi tout à l'heure, et quelque part, et elle se mit à me dire « mais je suis comme dans l'espace où on choisit les rôles que nous allons jouer ensemble. Mais tu n'imagines pas l'amour qu'il y a, et elle était en larmes, elle est ruisselée de larmes. Ce n'était qu'un amour incroyable. Et je ressentais aussi cet amour, je ressentais cet espace, entre guillemets, c'était évidemment une perception qui était d'un autre ordre, mais ça me parlait beaucoup. Et c'est exactement ça. Nous ne sommes qu'amour. Donc ce que nous décidons ensemble, quand nous jouons la pièce de théâtre de cette incarnation humaine ensemble, mais nous le décidons à partir de l'amour un que nous sommes. Ça ne peut pas être autrement parce qu'il n'y a que ça qui est, Dieu et tout ce qui est. Donc, c'est vraiment tout à fait logique. Si Dieu est tout ce qui est, ce dont nous parlons est une logique implacable. D'ailleurs, le courant miracle est extrêmement logique. Jésus est très logique. Au sens de la vérité, c'est la vérité, l'illusion, c'est l'illusion.
L'ego est très incohérent,
L'ego est incohérent et pourtant, et ça c'est très important, le système de pensée de l'ego est extrêmement logique aussi.
Dans sa logique,
qui croit à la séparation, évidemment.
C'est justement, tu dis dans les pensées, j'allais dire, on se prend souvent seul parce qu'on croit à la séparation.
Moi,
mais humainement, on est quand même seul, là, des fois. Ici, on se communique, on se parle, on échange. Si tu es seul dans ta chambre,
C'est vrai. L'ego est cohérent dans son insanité.
Arnaud Desjardins dit, vous n'êtes pas obligé de croire en vos pensées.
C'est vrai ça. Là, on est en train d'échanger en beauté autour du courant miracle. Seul dans son coin, c'est pas la même chose. Tant que c'est bien. Alors, même si on est tous attachés spirituellement, Dieu le sait, et c'est vrai, mais en même temps, regarde pas sévèrement, j'ai tellement envie que tu...
Et là, tu es en train de parler de la solitude apparente, c'est vrai.
Voilà.
Et cette solitude, eh bien, elle est apparente. Eh bien, je sais que souvent je parle des 6 800 000 000, eh bien, je suis responsable de, de mes pensées, de mon intention, de mon désir, de mon choix de la vérité. Et c'est comme ça que j'ai tous mes frères et sœurs. Pourquoi ? Alors que tu parles effectivement d'être seul dans chez soi, tout seul, bien sûr, il existe, bien sûr. Mais pourquoi est-ce que ça a un sens que je suis en train de dire ? Parce que nous sommes un. À cause de qui nous sommes, à cause de la vérité de qui nous sommes. Et donc, je suis quelque part en communication, nous sommes tous en communication. Et c'est pour ça que le cours nous dit bien que l'éveil de l'un, c'est l'éveil de tous. Et que, comme on est en communication, quand je reste centré sur la vérité, j'aide tous mes frères et sœurs, et moi-même évidemment, bien sûr. Parce que nous sommes un. Alors nous avons choisi une expérience duelle dans laquelle même il y a eu des blocages sur les liens entre nous, comme des chintages, des choses chintées où l'énergie ne passait pas. Eh bien c'est en train de changer. Et c'est pour ça que les communications entre nous sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus directes. Et c'est pour ça que quand on choisit la vérité, eh bien, dans l'apparence, on a un impact beaucoup plus grand. Mais l'esprit nous dit, vous ne pouvez pas comprendre ça. C'est parce qu'en fait, les relations entre nous sont beaucoup plus fluides maintenant. Et c'est pour ça aussi que nous sommes soigneusement guidés par l'esprit pour aller dans tel endroit. Et puis aussi, nous sommes guidés aussi, même quand nous sommes seuls chez nous, à ne plus trop nous disperser. Pourquoi ? Parce que quand on n'est pas dispersé et qu'on reste axé sur la réalité, eh bien on aide tout le monde, parce qu'on est branché sur tout le monde. On n'y peut rien, c'est comme ça. C'est le plan divin, ça. Il n'y a pas de mérite personnel. Mais c'est comme ça que ça se passe. Créon parle beaucoup de ça dans ses canalisations, dans ses, par l'Icarole. Et de toute façon, tous les canaux, toute l'information qu'on reçoit, ça nous parle de quoi ? Ça nous parle de ce qui est en train de se passer. C'est tout. Et c'est vrai que les connexions sont différentes, les portails énergétiques, les vortex sont différents. Et ça passe beaucoup plus facilement. Et c'est pour ça qu'il y a une accélération du processus d'éveil. Et la seule chose que nous avons à faire, c'est justement d'accueillir pour nous-mêmes, d'accueillir la vérité en notre cœur. C'est là que ça se passe. Et évidemment, accueillir la vérité, c'est accueillir la vérité de qui sont mes frères et sœurs. Et si je veux changer un frère ou une sœur, je perds le message. Parce que j'accueille plus. Je veux changer. Donc, je veux prendre la place de l'esprit. Je crois qu'avec ma petite vision, je peux faire quelque chose, je ne peux rien faire.
C'est la phrase du début que je viens de citer.
Alors, il y a un paradoxe. Parce que je viens de dire que je ne peux rien faire, et en même temps, je vais dire j'ai tout pouvoir. Alors, justement, il y a un paradoxe. Et le paradoxe apparent.
Des fois, c'est l'innocence ou l'ignorance, sans penser au pouvoir. Parce que j'allais intervenir tout à l'heure, quand Alvi a présenté la première phrase qu'il a choisie pour cette soirée. Et moi, immédiatement, j'ai pensé à mon frère, parce que très catho, profondément encore dans sa religion. Même si je lui faisais le Coran miracle, si ce n'est pas la Bible, et lui, ça ne convient pas. Donc cette phrase me rapprochait aussi, révélé ce que je dois faire en lui disant, bon, et je ne lui ai jamais dit, je ne t'oblige pas, l'essentiel c'est qu'il ne se plaigne pas. Bon, c'est vrai que bon, moi je dis ici que je suis en retard, mais c'est moi qui donne les, dans la famille, c'est celui de conseiller et tout. Donc, moi je ne me plains jamais. On dit, mais toi tu te plains jamais, c'est vrai, mais bon, je dis, mais moi je ne me plains pas. Et je suis le même Christ, j'ai toujours ma Bible, mais tu ne veux pas quitter du Christ, mais tu ne montres pas l'exemple du Christ. Ils ont appris un Christ que moi, mon père était pieux, on a tous appris à l'église. L'interprétation n'est pas la même. Donc, quand j'essaye de vouloir être un peu plus ouvert avec ce qu'on nous apprend par ailleurs, ça devient satanique. Alors, donc, entre guillemets, c'est moi qui utilise le mot. Donc, je ne suis pas dans le vrai.
Alors, être dans le vrai, c'est savoir que mon frère est mon sauveur, parce qu'il te permet de rechoisir qui il est et de ne plus s'occuper de tes croyances. De laisser tomber et de dire, il est le Christ, il est, c'est Dieu lui-même, et ses croyances n'ont aucune importance, ça ne change pas qui il est. Je reste persuadé de qui il est, et c'est ça que je veux voir. Donc, je veux que ma vision change. Si je pense que mon frère devrait penser différemment, je le veux autre, donc je l'attaque. Car le cours, c'est ce que nous dit le cours, attaquer, c'est vouloir quelqu'un autre, différent. Mais il est plénitude, il n'est que lumière, ton frère, comme tout, comme nous tous, puisque
oui,
nous sommes
bien un. Enfin, c'est une façon peut-être indirecte de l'aider, parce que, sachant que je vais le consoler, mais moi je ne peux plus faire autrement. Hein. Elle me dit même prier pour moi. Je dis, moi, je ne peux pas prier pour toi. C'est à toi de prendre tes responsabilités. Et oui, oui, là, je lui ai dit, maintenant, je ne peux plus, parce que là, je ne peux pas faire tout seul. Hein, je ne peux pas faire tout seul. Essaye de lire ta Bible et bien comprendre. Je pense que tu ne comprends pas bien la Bible comme tout le monde. Mais c'est lui qui m'amène à... C'est pas moi qui juge. Hein. Il me dit, je glisse, je tombe. Ben, c'était un chef d'entreprise, il ne comprend pas que l'argent ne suffit pas, qu'on peut tomber, etc. Nous, grâce à notre voix, ma voix que j'ai choisie, je peux, même si je me plains entre nous ici que je suis en retard, je peux quand même me ressaisir quand il y a une situation. Mais lui, il est grand chrétien à l'église tous les jours. J'espère qu'il ne dit qu'à sa voix, sa sœur, parce que bon, ben, je pense que je ne réagis pas de la même façon, mais je suis aussi chrétienne.
Le cours parle de ça très clairement en disant ne confondez pas les niveaux. Ce que tu viens d'exprimer, et merci de l'exprimer, tu parles au niveau de la forme, comme s'il fallait changer quelque chose. C'est au niveau de la vision intérieure de l'esprit. Ton frère est ton sauveur, comme il est aussi mon sauveur, parce qu'il me permet de rechoisir qui il est. Ses croyances ne changent rien qui il est. Dieu est tout ce qui est, il est tout. Et donc, je n'ai pas à vouloir qu'il change ses croyances, qu'il quitte sa religion catholique ou autre, rien du tout.
On ne t'a pas demandé ça, surtout pas. Non. Je respecte toutes les religions, franchement, jamais. Moi-même, j'en ai tout fait. Les branches chrétiennes, alors, dans mes recherches, bouddhistes, musulmans, tout ça. Et maintenant, je reviens dans mon salut, j'avais les choix, parce que j'ai tout vu. Que maintenant. Il n'y a qu'une vérité, donc je n'ai pas demandé de changer.
La vérité, c'est qui est ton frère. Et ça, quand on le voit, c'est magnifique. Et son comportement, ses croyances, ce qu'il peut faire, ses réactions n'ont plus aucune importance. C'est ça la vision. C'est ça la vision du monde réel dont parle le cours en miracle.
Non, mais c'est bien avec toute humilité, c'est-à-dire que c'est des correspondances que nous faisons. Et il me pose la question comme s'il posait à quelqu'un en connaissant, il attend une réponse. Et quand je ne réponds pas, il me rappelle, tu n'as pas répondu à mon...
Là, tu parles de... C'est ça,
et d'une relation.
Voilà.
Parce que c'est que je suis la seule à qui il peut s'ouvrir, il peut déchaîner tout. Moi, je lui ai dit...
Quand un visiteur cette phrase, je n'ai pas à me soucier de quoi dire ou quoi faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger, c'est exactement ça. Il n'y a jamais de réponse type dans la forme. La seule chose que tu es en train d'apprendre, et ton frère te donne une occasion formidable, c'est de dire, je serai dirigé chaque jour, chaque instant, à interagir avec lui, guidé par l'esprit dans l'instant. À des moments, je serai silence, peut-être, à des moments, je parlerai, à des moments, je dirai des choses, mais je ne sais pas. Et la question, c'est, je serai guidé par l'esprit d'instant en instant. Ça, c'est une grande leçon. Il n'y a que l'instant présent, et dans l'instant présent, c'est une guidance dans l'instant présent. Il n'y a jamais de stratégie type. Il n'y a jamais de réponse type en « qu'est-ce que j'ai à dire à mon frère ?» Je ne sais pas, je ne sais jamais. Je suis dans l'instant présent.
Ce qui est important, ce n'est pas ce qui est dit, ce n'est pas ce qui se dit, c'est la manière dont on se relie l'un à l'autre. c'est la manière dont je l'observe, enfin, où je le ressens, où je l'accueille. C'est pas important de, les mots. Il y a un dialogue inconscient. Quand on ouvre, il y a un dialogue inconscient qui s'installe et les choses, il se passe des choses qui sont non dites. C'est comme la relation avec un maître. Il y a énormément de choses qui passent dans ces moments-là.
Et si je change de vision à l'intérieur, si je change d'esprit à l'intérieur, les mots que je vais utiliser vont refléter à l'extérieur le changement intérieur.
Oui, c'est ce que j'ai fait.
L'extérieur n'a pas d'importance.
C'est juste un reflet. Il n'est pas réceptionné.
C'est pas grave, le coup d'après. L'essentiel, c'est qu'il est ressenti, qu'il est je suis compris.
La vision christique. Oui, mais la vision christique ne tient pas compte de l'effet apparent. Ça n'a aucune importance. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est que cette vision? De quoi parlons-nous? Ton frère va très bien. Ton frère n'est que lumière. C'est tout, c'est ça. On ne sort pas de là. Donc il va très bien. Et donc j'attends pas de résultat, j'attends pas de savoir s'il va comprendre, s'il va un petit peu s'ouvrir. Et... Non, tout ça c'est moi, c'est mon film intérieur, ça. J'invente ça. Mais il est... La relation avec mon frère, c'est effectivement l'instrument, l'outil le plus fort pour... C'est une occasion pour moi de rechoisir qui il est. Et ça se passe en moi, pas en lui. En apparence, bien sûr, puisqu'on est un, c'est en nous deux. Mais en vérité, je ne m'occupe que de moi-même. Le cours en miracle, c'est un self-study course. C'est quelque chose qui... Et on travaille que sur nous-mêmes. Le travail, on le fait à l'intérieur. Le royaume est en moi. C'est là que ça se passe. Donc les pensées des autres, les croyances des autres, c'est pas mon affaire. Et ça peut paraître dur, mais en fait, c'est comme ça que je suis vraiment au service de mes frères et sœurs. C'est en m'occupant que de mes croyances, que de mon état intérieur, que de mon ouverture de cœur, et comme tu as dit, de l'accueil totalement de ce qui se passe maintenant. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait de désir, d'intention, de permettre, c'est-à-dire d'accueillir, et d'abandon, lâcher prise. C'est vraiment ça, c'est vraiment tout le temps, c'est très simple. Mais ça nous paraît compliqué parce que ça remet en question toutes nos petites certitudes par rapport à des stratégies d'ego qui paraissent tout à fait saines pour le monde de la séparation. Ça paraît la moindre des choses en disant « mais les pauvres, ils sont là ils sont mal, regardez, ils souffrent. » Et là, tout à l'heure, avant le go qu'on partageait avec Avi, et il va le mettre sur son site, un message de Simon Leclerc qui s'appelle l'étoile du berger. Vous êtes l'étoile du berger. Et en disant, vous êtes chargé du poids des autres. Vous vous chargez des autres et du poids et vous vous alourdissez. Et c'est comme dans un village où il y a un des habitants qui tombe au fond d'un puits. Et tout le monde dit, oh là là, mais on va se mobiliser, le pauvre, il est au fond du puits, alors on va aller apporter de la nourriture, etc. Et puis, il y a un moment, on lui tend une corde, et il dit, ah non, moi, je reste là parce que tout le monde me nourrit. Ah ben oui, ben, c'est très bien, et on continue à le nourrir, etc. Définiment. Et tout le monde est triste. Alors il dit, mais il y a l'autre village où tout le monde rigole, etc. Mais dans ce village-là, ils sont tristes parce qu'il y en a qui sont au fond du puits, alors on les nourrit, c'est lourd, et tout le monde dit, ouais, je me donne du mal, hein, j'ai du mérite. Mais on arrête ça. Je ne suis pas en charge de... On peut dire, mais... Non, il va très bien. Et je vais écouter ma guidance. Est-ce que je vais lui apporter à manger? Bien sûr, si tu me coupes. Bien sûr, peut-être. Mais je ne sais pas. Et à des moments, on voit très bien dans la guidance. Non, tu ne donnes pas d'argent à ce clochard. Oui, à celui-là, oui. Tu ne sais pas pourquoi. C'est simplement des guidances. Parce que comme disait Avi tout à l'heure, de toute façon, les formes ne sauvent personne. Mais en même temps, c'est des guidances. Et ça fait partie du plan divin. Bill Gates, qui donne 5 milliards de dollars à telle ou telle association, très bien, c'est parfait, j'accueille. Mais il ne sauve personne. Et on peut donner toute la fortune du monde, on ne sauve personne. Et même si cette planète devient une planète extraordinaire avec une harmonie formidable, on n'a sauvé personne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne à sauver, c'est tout.
Et personne n'a sauvé. Mais on est divin, il n'y a que Dieu. Dieu est tout ce qui est.
Mais en attendant qu'on puisse comprendre, puisqu'on avance vraiment, ça va de plus en plus mieux, hein, qu'au moins la majorité puisse comprendre ça, il faut passer par... Quand tu vas voir un spécialiste, tu vas quand même des généralistes, c'est pour quand même t'apaiser le temps que tu te soignes complètement, que tu sois complètement guéri, puisqu'on parle de la guérison.
C'est interprété en disant, quand je parle de guidance, mais la guidance, c'est va chez le médecin, tu peux faire une piqûre, passe sur la table d'opération, va à ta banque, démarre cette société, etc. C'est ça la guidance. Justement, la guidance nous fait embrasser, nous fait aller vraiment dans le monde et aller soit agent de police, soit juge, soit procureur de la République. Oui, oui, vraiment, c'est ça la guidance. Parce que rien, tout est neutre, rien n'est bien ou mal. C'est ni bien ni mal. Donc on a des surprises de plus en plus, justement, et on commence à remplir des rôles parfaits. Et on s'aperçoit que dans les églises, dans les religions, à la police, partout, il y a des lumières qui s'éveillent. Et ces lumières sont soigneusement envoyées par l'esprit, que nous sommes tous. C'est ça qui se passe. Et donc, c'est ok, donc ça devient un jeu merveilleux. Et c'est pour ça que le cours en miracle nous parle de rêve heureux. Où on va se mettre à vivre vraiment une incarnation pleine, avec toute la matière, mais avec un esprit différent, avec un état d'esprit différent. C'est-à-dire être davantage dans l'amour, dans l'accueil, justement, dans l'instant, avec beaucoup moins de jugement. Et effectivement, en observant des miracles, en observant plein de choses merveilleuses. Mais à chaque fois, c'est parce que nous avons changé notre état d'esprit, que nous sommes beaucoup plus dans l'accueil et dans le non-jugement.
Moi, à propos du sacrifice, il me vient une phrase qui m'a beaucoup aidé. Non, je suis vraiment bien, bien inspiré de cette phrase qui dit « La seule manière d'aider quelqu'un, c'est de lui montrer l'exemple d'une personne rayonnante. » Hein, comme dans ce village où ils sont tous tristes. Pourquoi c'est vrai ? Parce que quand je vois quelqu'un qui est dans l'amour, quand je vois quelqu'un qui est libre, alors ça me donne envie. Pourquoi ça me donne envie ? Parce que ça me rappelle que je suis ça. Ce souvenir-là, je ne peux pas l'effacer. La source d'amour que je suis, c'est un souvenir qui n'est pas effaçable. C'est pour ça que les maîtres attirent des millions de personnes, parce qu'ils sont tellement libres que chacun se rappelle que lui aussi il a envie de redevenir ça, libre, qu'il a aussi envie d'émaner l'amour comme ce maître émane l'amour. C'est magnétique, hein. C'est pour ça que moi j'appelle ça l'égoïsme divin. L'égoïsme divin, c'est faire en sorte de s'occuper de moi, de m'occuper de moi, jusqu'à ce que je rayonne l'amour, et c'est comme ça que je vais aider l'autre. Mais je ne peux pas aider l'autre en me sacrifiant, parce que j'oublie qui je suis en me sacrifiant.
J'ai rebondi justement sur la remarque à Bi et celle de Sylvain tout à l'heure, concernant justement le fait que quelque chose se diffuse, se met en place. Donc moi ce week-end j'ai fait un stage de tai chi avec l'école à laquelle je pratique, et j'ai vu au cours des années l'évolution des stages. Et ce week-end, on a travaillé essentiellement la présence, le rayonnement et être présent à sa propre vibration, à son champ. Et on est arrivé au bout de 4 heures de montée en charge, on arrive à être dans vraiment des états où ça pousse, ça pulse. Et vraiment, il y avait tout le monde, on était tous sidérés de la puissance, de l'effet, c'était fabuleux. Et ça, cette école-là, ils sont tout à fait dans ce fil-là, et rayonner. C'est pratiquement comme un cours en miracle, mais avec une pratique physique. C'est fabuleux. L'autre jour, Roger, avec les chants du cœur, c'est pareil, c'est fabuleux ces expériences. Et ça va encore aussi, toujours dans le sens.
s'il y a une chose que personne ne peut réfuter, c'est que chacun a envie d'être heureux. Et s'il y a une autre chose que personne ne peut réfuter, c'est que chacun a envie d'aimer et d'être aimé. Et quand je parle ce langage, que ce soit au niveau conscient ou inconscient, c'est toujours reçu. C'est pour ça que ça aide d'aimer la situation, d'aimer la personne, y compris si apparemment cette personne ne reçoit pas ce que je dis. Hein. Parce que ces vibrations d'amour que j'envoie à un autre niveau, au niveau de l'esprit, elles opèrent parce que c'est tout ce qui est. Donc tout ce qui est forcément est parlant pour moi. C'est pour ça que la prière, prier pour quelqu'un, même si c'est à distance, il n'y a pas de distance. Dans le monde réel, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, on est tous un seul et on est connecté en permanence. Donc il y a des expériences qui ont été faites sur la prière. Hein. Un groupe de 400 personnes qui priaient ont eu des actions positives, scientifiquement démontrées avec des groupes témoins, etc. Ont eu des effets de guérison sur le corps. Encore une fois, la forme n'a pas d'importance, mais de quoi on parle là? On parle de l'esprit, hein, on parle de émaner qui je suis à travers le corps, utiliser le corps comme un outil pour choisir l'amour, hein, dans ce cas-là, à travers la prière. La prière, c'est une autre manière, comme la méditation ou d'autres, de dire voilà qui je suis et reçois ceci en tant que rappel de qui tu es. C'est ça la prière. C'est rappeler à l'autre qu'il est pur amour. Même à l'endroit où c'est, même dans la plus profonde des dépressions, chaque mot d'amour que je donne est reçu assurément.
Ça, c'est totalement vrai. Je travaille dans un milieu très conflictuel et le fait, je n'agresse personne, je suis non vraiment non conflictuel, moi par contre, je suis calme et paisible avec tout le monde, je ne rentre pas dans toutes les conneries de médisance, je ne rentre pas dans tout ça. Et bien, au début, j'ai été pris, j'ai bien dit que je faisais du tai chi, tout ça, j'ai été pris pour un peu, pour un illuminé, mais un peu à part. Mais tout se passe bien avec tout le monde. Les gens, quelques-uns ont essayé de m'agresser, par contre, là, justement, j'ai relâché et j'ai eu repoussé par des mots énergiques, mais non, sans méchanceté. J'ai renvoyé dans leur but sans méchanceté, mais violemment. Enfin, violemment, mais sont repris le reflet de leur propre agressivité en effet miroir. Et donc, ça se passe très bien. Parce que, justement, je rayonne quelque chose, donc ils ne me cherchent pas, et bon, ça se passe très bien. Et donc, quand on est comme ça, il y a un retour. Des fois, ça met un peu de temps à s'installer, mais il y a toujours un retour. Les gens après ne cherchent plus vraiment le conflit, ils vous foutent la paix. Vous n'êtes pas un danger, vous n'êtes pas un allié.
C'est ce que Yeshua disait quand il disait dans le monde, il y a seulement des manifestations d'amour ou des manifestations qui sont des appels à l'amour. Donc quand je peux changer ma vision pour voir qu'il y a un appel à l'amour en face de moi, eh bien, naturellement, je réponds par l'amour, puisque c'est un appel à l'amour. Mais j'ai besoin d'abord de voir correctement, de ne pas me limiter au monde de la séparation, de voir par-dessus ou à travers.
Quand tu le dis comme ça, c'est très puissant. Au lieu de voir quelqu'un qui t'insulte, tu vois un appel à l'amour. Mais quand tu penses à ça, tu as fait la moitié. C'est parce que tu es dans le... t'as compris beaucoup de choses, donc t'es un petit peu en retrait, tu vas pas te laisser dépasser par la foule, par ton ego qui va s'emballer tout de suite, quoi. Parce que si tu vois l'appel à l'amour, c'est-à-dire que t'es quand même très apaisé en toi, t'es serein, et à partir de là, tu vas pouvoir apaiser l'autre, parce qu'en général, quand j'ai aussi, de temps en temps, pu pu garder ma tranquillité quand quelqu'un était énervé. Et c'est vrai que à ce moment-là, la personne, ça redescend tout seul. Mais ça dépend comment on est dans le moment présent. Je suis plus souvent énervé que apaisé. Donc je suis plus souvent du côté de la force de Dark Vador que du.
Si on est de voir un cheminée, c'est sûr, ça va. Voilà.
Mais de le voir comme ça, quand on n'a pas tout compris, en se disant que c'est un appel à l'amour, moi je trouve que ça remet bien les choses en place. Et ça permet de se recentrer tout de suite, quoi. Parce qu'on voit quelqu'un qui demande de l'aide, quoi. Et moi c'est.
Et oui.
Et c'est plus pareil.
C'est pour ça que c'est pas 50% du chemin, c'est tout le chemin.
Ouais,
c'est 100% du chemin. C'est ça. Parce que tu as déjà changé de vision. Quand tu as une vision juste, tu peux avoir que des actions justes. Quand tu as une vision en paix.
C'est peut-être déjà de le voir en appel à l'aide plutôt que de le voir en agression.
C'est pas encore forcément facile.
Le véritable pardon, c'est celui-là. C'est de voir correctement. C'est aide-moi, Saint-Esprit, à changer de vision. Si je peux voir le frère qui m'agresse comme quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui me dit je me sens pas dans l'amour, est-ce que tu veux bien m'aider à me ressentir un peu plus dans l'amour? Ben oui, je veux t'aider. Oui, donc je vais t'envoyer de l'amour parce que tu appelles ça et moi j'entends ça. Mais j'entends avec l'aide de mon esprit juste.
Mais est-ce qu'on peut entendre ça une fois qu'on peut en donner? Parce que tant qu'on ne s'en est pas donné soi-même, on n'entendra pas l'appel des autres.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a peut-être dans le chemin, il y a aussi déjà ce que tu disais, l'égoïsme divin, c'est-à-dire c'est trop coupé de soi pour pouvoir être dans un état où on va pouvoir aider quelqu'un. Si je ne sais pas nager, je ne vais pas aller aider le mec qui ne sait pas nager.
Oui, super. Super.
Donc j'apprends un peu à nager et puis après je suis dans un état où je peux commencer à me poser des questions. Est-ce que je vais lui tendre le jeter une bouée ou pas?
Soyez vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde, disait Gandhi. Donc en effet, un maître éveillé ne voit que des gens en paix, ne voit qu'un monde en paix, parce qu'il y a la paix à l'intérieur. Quand je m'occupe de ma paix, je m'occupe de l'autre, indirectement.
Donc,
en effet, si je vis le manque, je vais enseigner le manque. Si je vis la paix, je vais enseigner la paix, parce que c'est ce que je suis, la paix. Donc, oui, je peux aussi entendre mes propres appels à l'amour, qui s'expriment par ce que j'appelle souffrance, ce que j'appelle endroit non pacifié de moi, ce que j'appelle les conditionnements, ce que j'appelle les peurs. C'est des endroits qui ont oublié ma nature profonde. Mais j'ai besoin d'abord de les voir et de les pardonner, de les voir correctement.
Tu ne peux pas comprendre quelqu'un en face de toi si tu n'as pas déjà commencé à comprendre comment ton propre esprit fonctionne. Si tu ne t'apprécies pas toi-même, tu auras du mal à apprécier les autres personnes. Si tu t'évalues mal, tu auras du mal à évaluer correctement les autres personnes. Tout ça, c'est tout le travail que tu fais sur toi, te sert finalement par rapport à l'empathie, tu développes tout ça par rapport à dans ta manière de te relier à toi, tu vas avoir une autre manière de te relier aux autres. Il y a toujours cet effet de.
Mais je crois qu'on n'aime pas chez les autres, ce qu'on n'aime pas chez soi aussi.
Ce qui est important, c'est de comprendre comment un peu ça fonctionne là-dedans, et l'autre en face, ça fonctionne à peu près comme ça, mais pas tout à fait pareil, mais c'est dans le même. Non, mais il y a des nuances, mais c'est dans les mêmes. Les mécanismes sont les mêmes.
Les mécanismes sont faciles.
Les mêmes. On est fait pareil. Même si on n'a pas exactement les mêmes schémas, ni les mêmes défauts, mais bon, ça ressort toujours des mêmes peurs, du même manque d'amour, c'est toujours les mêmes schémas qui sont là.
Et moi, ce qu'il me vient de dire, c'est qu'il y a un seul rêve, il y en a un seul. Et nous partageons tous le même rêve. Donc dès que je change de vision dans le rêve change, entier, tout entier. C'est quoi le rêve? C'est ma vision du monde. Je change d'esprit, je dis « enseigne-moi à voir correctement » et tout d'un coup, tout le monde, ma famille, mes amis, mes relations,
mon compagnon, ma compagne, tout le monde change parce que ma vision a changé. Donc je suis le maître de ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que je tout d'un coup je me dis, ah oui tiens, j'ai plutôt envie d'entendre les appels à l'amour que les agressions. Parce que entendre les appels à l'amour, ça m'aide à exprimer qui je suis et ça me rend plus heureux. Alors que entendre les agressions, ça m'aide à m'enfoncer davantage dans qui je ne suis pas et être plus malheureux, à me sentir plus malheureux. Donc, quand j'ai opéré ce déclic-là en moi qui dit, tiens, les solutions qui ne marchent pas, je les ai assez essayées. Les impasses, je les ai assez essayées. Les voies sans issue, je les ai assez essayées. Et il n'y en a pas une seule qui a marché. Dans ce monde-là, il n'y en a pas une seule qui a marché. C'est-à-dire qu'il m'a rendu heureux. Et je veux être heureux, par-dessus tout, c'est ça ma nature, je veux reconnaître qui je suis. Donc, quand je dis, voilà, voyons voir un petit peu cette personne qui m'agresse, en fait, c'est moi qui ai pris une forme apparemment différente. Donc, si c'est moi, je me mets un instant dedans et je dis à partir de quel état de séparation je peux dire des choses pareilles. À partir de quel état de souffrance, ce qui est la même chose, je peux dire des insanités pareilles. Je peux faire des erreurs pareilles d'appréciation. Quand je peux avoir cette empathie de dire « je suis lui et il est moi » et je peux voir à partir de quel état d'esprit, dans le sens propre, je peux dire ces choses-là, alors c'est facile d'entendre les appels à l'amour parce que c'est comme si c'était moi qui étais en train de dire ces insanités. C'est comme si c'est moi qui étais en train de juger, alors que c'est l'autre qui le fait. Et je peux voir l'état de séparation et je peux dire, il y a besoin de guérison. Je vais offrir la guérison maintenant, parce que j'entends l'appel à la guérison. Hein? Et là, je peux être empathique, parce que lui, c'est moi. Je suis en train de m'aider quand j'aide l'autre. Quand je fais ça, c'est plus facile, parce que je me porte secours, je me sauve moi-même. Hein, sauver dans le sens du salut, dans le sens de reconnaître la vérité. Hein, ce n'est pas sauver l'autre dans le sens de me sacrifier pour l'autre. Donc, dans ce changement de vision, c'est le salut du monde entier. Ce n'est pas seulement le salut de qui est en face. Parce qu'avec cette vision, je vais regarder l'ensemble de la fraternité, l'ensemble des frères. Et c'est la... C'est le déclic qui change le monde en entier. Il n'y a plus une seule personne qui a changé. La relation avec tout mon environnement, et même la planète, le temps, l'espace, mes croyances, tout change en même temps. C'est un retournement à 180 degrés de où je veux aller. C'est Laurent Lévy qui dit une chose très belle. Hein. Il dit... je ne me concentre pas de là où je viens, mais plutôt sur là où je voudrais aller. Et là, je sais où je veux aller, c'est clair. Moi, je veux aller vers l'amour sans condition. Je veux aller vers le bonheur absolu. Hein. Donc, que mes actions, que mes pensées, que mon esprit soient ça, reflètent ça. De là où je viens, eh bien, c'est ok, je le laisse là où c'est. J'ai eu besoin de faire ces expériences pour aller là où je veux aller. Mais c'est ok, ça, c'est, j'ai pas besoin de m'en occuper. C'était le chemin. Moi, si je regarde dans mon chemin, il y en a des choses que je voudrais pas revivre. Mais en même temps, j'ai plein de gratitude parce que ça m'a aidé à vivre des choses magnifiques. Hein, ça m'a aidé à choisir autrement. Mais ça n'a aucun intérêt de me replonger là-dedans, absolument aucun, puisque c'est qui je ne suis pas.
En réalité, tout notre travail, c'est la vision que nous avons face à une situation. Prenons même l'exemple de sauver quelqu'un de nager, c'est pas nous qui sauvons. Quand les situations, quand ça arrive, c'est Dieu qui sauve, hein, même si tu ne sais pas nager, il y a des circonstances qui se font en sorte que la personne est sauvée. C'est pas toi qui sauves la personne, c'est notre vision, c'est notre façon de voir les choses, ça met tout en ordre et puis toutes les choses se passent bien. C'est vrai que bon, On est tous là, hein. Moi la première, on te trace un travail que nous devons faire tous, la prise de conscience. Non, mais ce qui est très beau, c'est que quand on a compris et qu'on l'intègre, c'est très beau. Mais quand on n'a pas compris, c'est vraiment une illusion, parce que des fois, je me dis souvent que je me trouve seule dans mon milieu, même si on est tous connectés. Ce genre de langage dans mon milieu, c'est pas encore ça. Et des fois, c'est difficile à passer. Hein.
C'est pas que c'est difficile, c'est impossible. Ça passe pas. Il y a deux mondes, il y a le monde réel, il y a la réalité et il y a l'illusion. Et ils ne peuvent pas s'interpénétrer. C'est pour ça que le cours nous dit la seule chose. Tout à l'heure, on parlait d'un peu d'égoïsme divin. La seule chose que vous ayez à faire, c'est d'accepter, en anglais c'est le mot atonement, qui était traduit par expiation, mais ça veut dire la correction en l'unité, c'est-à-dire le fait que tout est un. Que tout est un, que la séparation ne s'est pas produite, que c'est impossible, que tout est un, que tout est esprit un. Et donc, ça veut dire aussi que les formes que nous voyons sont le reflet de l'esprit un. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'accueillir cet atonement, ce qu'on a traduit par expiation, c'est-à-dire le fait que tout est un, pour vous-même. Pour vous-même. Pourquoi ? Parce que quand je le vois pour moi-même, je vois que tout le monde est là, puisque on est tous un. Je le vois pour tous mes frères et sœurs. Donc à ce moment-là, je n'ai pas besoin d'aller savoir si mon frère et sœur pensent ceci ou cela. Ça, c'est l'illusion, puisqu'on est un. Donc ça se passe en moi. Je vois que nous sommes un. Ben voilà, c'est fini. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'éveil. C'est fini. Donc, tout est une question de vision. Et là où je suis responsable, c'est ma vision. Ce n'est pas celle des autres, jamais. Mais ma vision, c'est à cause de la vision justement à laquelle j'accède, que je retrouve, dont je me rappelle, c'est que tout est un. Et donc, tous mes frères sont là, sont avec moi, c'est ce que nous explique le cours tout le temps. Donc, je ne m'occupe pas des autres.
Il y a une leçon qui est enseignée par-dessus tout, je veux voir.
Oui, par-dessus tout, je veux voir, je veux voir les choses différemment. De toute façon, toutes les leçons sont un peu les mêmes, c'est des façons différentes. Mais cette notion justement d'égoïsme divin, tout ça, c'est évidemment des mots. Ça veut dire, je suis. L'important, c'est ma vision. Et c'est là que j'aide tout le monde. C'est pas en allant essayer de changer la vision des autres. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas être guidé à interagir d'une certaine façon. Ça, on le répète indéfiniment, parce que sans ça, c'est mal interprété. Donc, je suis, comme disait tout à l'heure Avi, je ne vais pas me soucier de quoi dire ou quoi faire. Car celui qui m'a envoyé va me diriger, donc à chaque instant nous sommes tous dirigés, guidés, et on nous dit suivez votre intuition. Mais dans les choses du détail, quotidien, on croit toujours, parce que dans l'ego, on cherche des choses spectaculaires, des choses importantes, et puis il y a des choses pas importantes, et c'est déjà donner de la valeur. Tout est neutre. Donc être président de la République ou manger une banane, c'est neutre. Mais vraiment, c'est ça. C'est pas une plaisanterie. C'est drôle à dire, c'est vrai, mais c'est vraiment ça. Parce que le président de la République, il mange des bananes. Et puis le gars du coin de la rue, il injurie le président de la République. Et puis tout ça, c'est un jeu. Mais il n'y a pas de président de la République, il n'y a pas de bananes, il y a simplement un jeu. Un jeu qui est imaginé. Un rêve imaginé. Dans lequel il y a des personnages et des rôles. Avec des formes différentes, de la matière, des fruits, des animaux, et puis de ce qu'on appelle des hommes, et qui interagissent, mais il n'y a qu'un seul esprit. Il n'y a qu'une seule source. Qui est tout ce qui est. Et donc c'est très fort. C'est vraiment très fort. L'enseignement non-duel, c'est pas rien. C'est-à-dire c'est la vérité ou l'illusion. Et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on apprend à faire, c'est voir la vérité comme la vérité et l'illusion comme l'illusion. Et c'est ça ce que nous dit le cours en disant vous n'avez qu'à accueillir l'expiation, le fait que tout est un pour vous-même, encore une fois, parce que quand je fais cela, quand je commence à le vivre, change, comme disait Avi tout à l'heure, mais tout change. Toutes mes relations, je vois tout différemment, et à ce moment-là, j'atteins la vraie paix, qui a toujours été là, parce qu'il n'y a que la paix qui existe, elle est cette paix-là. Seulement, j'y avais imaginé un manque de paix. Donc je reviens dans cet état de paix, où à ce moment-là, les croyances des uns et des autres, ou les guerres, ou les guerres, etc., ça n'a pas d'importance. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas me réjouir au quotidien de mon expérience et de me réjouir d'une réconciliation entre des frères, d'un repas pris ensemble, de nouvelles créations, de nouvelles créativités, etc. Je me réjouis. Mais je me réjouis de tout. Je deviens amoureux de tout. Mmh. Je deviens amoureux de tout le processus. Parce que ma vision a changé. Donc c'est pas un petit travail. J'aime bien dire ça, parce que c'est pas un petit boulot. On n'est pas sur un petit boulot. Et pourtant, le grand éclat d'ailleurs, c'est ça se fait tout seul. Et que tout ce que nous ayons à faire, c'est justement dire oui. C'est pour ça que le cours insiste bien en disant, il parle de willingness, c'est-à-dire cette bonne volonté, cet accueil, en disant d'accord, je laisse l'esprit diriger les choses. Je vais prendre la deuxième place pour avoir la première. C'est encore une leçon du cours, ça.
Celle-là, je ne la connais pas.
Je vais prendre la deuxième place pour avoir la première. Il n'y a qu'une place. Il faut bien expliquer, c'est difficile à comprendre. En fait, il n'y a qu'une seule place puisque tout est un. Donc je prends la deuxième place, c'est-à-dire c'est une façon de parler, donc je me recule, je laisse faire. Et à ce moment-là, je m'aperçois que ça y est, tout est un. Et donc c'est la première place. Tout ça, c'est symbolique.
C'est symbolique.
Comment ?
C'est le point de vue.
C'est le point de vue.
Allez, deuxième, c'est juste la question de point. Oui. Tu mets la ligne.
Oui. Alors moi, je comprends que selon l'épaisseur du nuage de séparation, si c'est une fine brume ou un épais brouillard, alors ce soit difficile d'entendre l'appel à l'amour qui est émané par l'autre en face. Parce que quand je suis moi-même dans cette séparation, par nature, je ne vois pas le soleil qui est l'autre, puisqu'il y a le brouillard qui vient masquer. Alors quand le brouillard se dissipe un peu, je commence à voir l'autre briller. Et là, c'est plus facile. Mais en attendant, si je ne peux pas entendre l'appel à l'amour que m'envoie l'autre, alors j'ai à écouter mes propres appels à l'amour. C'est qu'en moi, il y a un appel à l'amour qu'il est urgent d'écouter. C'est parce qu'il y a cet appel à l'amour très fort en moi que je ne peux pas entendre l'appel à l'amour de l'autre. C'est comme si le mien faisait plus d'écran, de bruit que le sien. Donc, encore une fois, l'égoïsme positif, c'est ça. C'est est-ce que je peux arrêter de me juger? Est-ce que je peux me pardonner dans le sens reconnaître que je suis en train de jouer à un jeu qui n'a pas de réalité? Est-ce que je peux demander à voir différemment. Et quand je m'occupe de moi de cette manière-là, c'est une manière de m'occuper de l'autre, indirectement, parce que je vais pouvoir faire diminuer, justement, rétrécir ce nuage de séparation qui m'empêche de voir l'autre vraiment pour ce qu'il est. Donc, je m'occupe de moi et quand j'entends mes propres appels à l'amour, quand je peux me dire, c'est vrai, au fait, je fais du mieux que je peux, même si je ne fais pas d'une manière parfaite, je fais du mieux que je peux. Je peux bien dire que je ne peux pas faire plus, puisque c'est du mieux que je peux. Je peux déjà dire que c'est parfait comme ça. Et ça, c'est un changement de regard pour soi, de soi à soi, de moi à moi. Je me dis, dans l'état actuel, c'est le mieux que je puisse faire. Même si je juge, je me pardonne de juger. J'arrête de juger mon jugement. Mais c'est énorme, ça c'est énorme. Quand j'arrête de juger mon jugement, je me dis, je suis un être aimable, puisque moi-même je peux m'aimer. Et quand je dis je suis un être aimable, c'est la voie pour dire tu es un être aimable, parce que ce que j'ai vu en moi, alors je vais pouvoir le voir. C'est aussi une question de vision. Mais en effet, quand la séparation est bien consistante, alors tourner le regard vers l'intérieur, c'est la priorité des priorités. C'est-à-dire que c'est plus facile, c'est plus légitime quand je me sens séparé de dire je vais m'occuper d'aller bien, je vais m'occuper de retrouver la source d'amour que je suis. Parce que
si je vais essayer d'écouter l'amour chez l'autre, de par mon manque, je vais voir le manque. Je ne vais pas voir l'amour. Parce que je vais voir qui je suis. Je vais voir avec le filtre que je suis à l'intérieur. Donc je ne verrai que la manifestation de séparation que moi-même je représente. Et ça rejoint bien l'enseignement non duel, puisque en vérité, il n'y a pas d'autre. Hein. Donc je n'ai à m'occuper que d'aller bien. Et quand je vais bien, je guéris l'autre en même temps. Donc ça me soulage. Hein. Et quand l'autre m'agresse, ben, ça me rappelle que je ne vais pas bien parce que je réagis. Et pourquoi je réagis? Et pourquoi je ne peux pas aimer au lieu de réagir? Pourquoi? Quelle est la part qui n'est pas dans la paix, qui est dans la perturbation, qui réagit? Parce que si ce n'était pas perturbé, je dirais, bah, tiens, pourquoi tu me dis ça? Il y a une raison? Non, pas de raison. Donc je serais tranquille, hein, quoi que l'autre me dise, ça serait neutre. Mais quand ce n'est pas neutre, ça veut dire que j'ai à tourner le regard vers l'intérieur.
Oui, je reviens sur ce que tu as dit à l'instant, l'ami, je guéris l'autre. Et en fait, quand tu restes centré par rapport à quelqu'un qui veut te déstabiliser, comme tu as une réponse non conventionnelle par rapport à la plupart des autres gens, tu regardes au bout d'un moment et tu comprends plus ce qui se passe. Et bon, soit il pète les plombs encore plus, soit au contraire, il se rend compte de l'énormité de la situation et toi, tu prends. On échappe à toi et ça se calme parce que t'es pas rentré dans son jeu, comme t'es pas rentré dans le jeu, ça arrive de foutre le participant, tout simplement.
Une voiture a besoin de carburant pour rouler, voilà. Et l'ego a besoin de croyances pour exister. La croyance, c'est le carburant de l'ego. Si t'arrêtes d'y croire, si t'arrêtes de mettre de l'huile sur le feu en disant Dieu n'existe pas, hein, c'est une manière de dire que je suis séparé. Quand je rajoute de l'huile sur le feu en agressant, c'est-à-dire en maintenant l'état de séparation, alors je donne du carburant à l'ego. Hein. Une des meilleures manières de laisser l'ego pour ce qu'il est, c'est-à-dire une croyance, c'est de ne pas alimenter la croyance en lui donnant de l'énergie. L'énergie, c'est du carburant. Hein. Ça possède une puissance.
Ce que tu dis ou faire, l'autre va l'exploiter pour encore en mettre une couche.
Donc, j'arrête de verser une portion alimentaire à l'ego. Hein? Je coupe les vivres. Et c'est quoi les vivres? C'est les croyances. Donc, si je dis je crois que je suis séparé, l'ego peut enfler au point d'occuper tout l'espace de ce que je crois être. Et quand je coupe ces vivres-là, c'est-à-dire j'arrête d'insuffler l'énergie dans quelque chose de non seulement faux, mais fou, parce que c'est absolument fou de prétendre ça, insane, comme dit le cours. Alors, le ballon de baudruche privé d'air se dégonfle, forcément, puisque c'est moi qui souffle dedans. Est-ce que je peux décider d'arrêter de souffler, hein? Et réellement, hein, c'est moi, je vois que dans ma vie, ça a fonctionné comme ça. C'est moi-même qui suis à l'origine du gros ballon de baudruche. C'est moi-même qui puis décider que finalement, il n'y a pas besoin de faire ce que je fais. Il n'y a pas besoin de gonfler davantage.
Comment est-ce que l'ego te porte plainte? Et c'est souvent des petits obstacles qui nous arrivent pour nous permettre quand on est sur le chemin. Souvent. Et c'est toujours, là il faut dire merci hein, dans ce cas-là.
Voilà, c'est la fin de ce groupe. Merci infiniment à tous ceux qui sont avec nous, à ceux qui écoutent l'enregistrement, d'avoir été présents avec nous. Merci à tous ceux qui sont autour de cette table de nous avoir infiniment aidés à nous rappeler la vérité, parce que c'est vraiment une aide à toute cette situation évoquée pour nous rappeler la vision juste, hein, qui nous sommes vraiment. Voilà, et sur ces paroles, je vous dis à lundi prochain, le 20 décembre, à la même heure. Je crois, hein, c'est ça. Oui.